En vrai, c'est super chiant les intros, alors on va être court.
Bienvenue dans le Camino Club des Ultra BG, un podcast fait par Camino à la sauce Camino et avec des invités grave Camino.
Normalement, on est en live tous les jeudis de 18h à 20h et on est disponible sur les plateformes de streaming 48h après.
Aujourd'hui, on reçoit l'Ultra BG Balou qui nous a raconté des histoires de fou malade.
On a parlé de son parcours, de la création de tous les médias qu'il a créés, de sa rencontre avec des stars US,
de ses meilleurs moments, de ses pires moments et aussi du futur de tous ses projets.
C'est parti pour l'épisode, on est ensemble. Babanx. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Camino Club. J'espère que là, cette fois-ci, la qualité audio, il n'y a pas de problème, que la vidéo, ça marche. Bienvenue, Balou.
Yeah. Merci à vous de l'invitation, les gars.
Comment ça va?
Bah, ça va tranquillement. À chaque fois que je suis ici, ça va bien, et vous?
Ça roule. Eh, Balou, il savait qu'il venait chez Camino. Vraiment, moi, quand il est rentré dans la pièce, je me suis dit, je vais vérifier quand même la paire qu'il a au pied, tu vois. Pour dire elle est légit.
Non, elle est tranquille, c'est une super tranquille.
Pied vite fait qu'on
non, c'est la une tranquille, une petite tranquille, genre petite la lune, tout ça.
Mid.
Ouais, voilà.
Moi j'ai ramené 98, j'ai sorti un peu du placard là.
Eh hey gros, tu l'as poncé. Je crois que c'est début Camino, t'as vu cette paire là.
Ouais. Je trouve côté vieilli, tout ça, je trouve vieilli grande
d'art. Gros, moi depuis, j'avais un carton sur mon bureau et j'avais pas ouvert la paire qu'il y avait dedans. Là, ça fait une semaine, j'ai ouvert, j'ai ça là. Je porte ça. Ouais, claquette Nike. J'ai oublié. Des types, je crois.
C'est un délire, hein.
Eh gros, c'est un délire.
T'es confortable dedans,
eh
t'es
gros,
bien,
je suis
hein.
Tellement confort. Si c'était pas
c'est
bizarre,
ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut.
Dit test. Mais j'avoue, j'ai pas confiance en mes chaussettes.
Mais je fais du 46 en plus, gros.
C'est pas bon.
C'est
pas
mort.
Bon. Eh, aujourd'hui, on va. Que ce mot.
Excusez-moi, les gars, mais on n'entend pas chasseur, donc on va régler ça.
Ok.
Quand même, vous pas.
On entend. Balou, c'est quoi l'actu en ce moment?
L'actu, bah, on est toujours à fond sur French Plug.
Ouais.
On a lancé un podcast qui s'appelle le Balou Show Podcast, qui est un peu sur toutes les plateformes de streaming. Après, il y a d'autres émissions aussi qu'on a lancées sur French Plug, que ce soit le No Cap Podcast géré par Logan. On a un délire de backstage où on va dans les clips qui est lancé par mon gars Ange. On a une filiale un peu de French Plug qui est gérée par Alisha, qui est juste derrière moi, là, qui s'appelle What's Up Girls.
Okay.
Et puis moi, je suis en train de bosser pour mettre un pied aussi dans le cinéma, on va dire, essayer de faire court-métrage et tout. Ça fait un moment que je suis dessus, mais je vais y arriver.
Déjà, t'avais joué dans un long métrage avec Romain Lévy.
Ouais, ouais, ah ouais, carrément.
Gangster d'art.
Ouais, j'avais joué de. Ouais, ouais, t'es bien renseigné. T'es bien renseigné. Très bien renseigné. Ouais, ouais, j'avais joué dans un long métrage. C'est Gangster d'art.
Ouais.
Romain Lévy, il y avait Kev Adams, Manu Payet, etc. C'était une expérience de ouf.
Ok. T'avais kiffé?
Franchement, ouais, j'avais kiffé de fou, en vrai de vrai. Alors, c'était ma première expérience dans le cinéma, tu vois. Je faisais déjà des petites vidéos de mon côté, mais ça avait aucun rapport. Et l'expérience, c'était 4-5 jours de tournage, je trouvais ça ouf.
Okay.
À la base, je devais avoir le rôle principal là, que Hubert Koundé l'a eu.
Okay.
Après, bon, j'ai eu un peu petit rôle. Mais bon, le cachet n'est pas le même, c'est vrai, mais l'expérience est bonne.
Quoi, c'est lui qui est venu te chercher? C'est Romain Lévy qui
est venu? Ouais, il est venu me chercher, il m'a envoyé un email et après j'ai dit let's go.
Ok.
Ouais, ça s'est fait comme ça.
T'as pas fait de démarche pour essayer?
Non, j'avais jamais tenté quoi que ce soit, tu vois.
Ok. Il y a Chasseur qui a un petit problème de micro là, je sais pas si on l'entend ou pas.
Ça veut dire quand tu parles de c'est quoi, c'est produit
ou... Ouais, là je suis en mode je vais essayer de produire une petite mini-série, tu vois, comme ça dans un premier temps, après voir les retours et après évoluer, tu vois. Là c'est bon, normalement le mic il me fonctionne là.
On entend bien les refs.
Là c'est bon.
Là c'est bon.
Eh, je sais pas si t'as déjà écouté un des épisodes du Camino Club, il y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 3 en vrai. 4 4 Ouais, 4e.
Un mois pile.
Ah ouais, c'est vrai. Et en gros, le concept, c'est genre de retracer le parcours d'un mec, d'un personnage qu'on aime bien, tu vois. Qu'on aime pas en vrai, mais là, en l'occurrence, qu'on aime bien. Et en fait, ce qu'on veut savoir, c'est genre qui t'étais avant.
Ok.
Et toutes les péripéties qui ont amené, genre, qui t'ont amené à devenir Balou et qu'on puisse vraiment tout connaître, tu vois. Ça veut dire, j'espère que t'es bien installé.
Ah là, je suis.
Il faut qu'on prenne le temps de.
Là, il y a de l'eau, j'ai mon ventilateur, j'ai la graille, c'est bon, hein.
Si on doit partir du coup du début, genre on va dire à l'école, même ouais. À l'école primaire, t'étais ouais. Quel genre d'élève
t'étais
dans quel coin?
En vrai, à l'école primaire, j'étais au début, Au début, j'étais un élève studieux, on va dire au début.
Okay.
Genre CP, CE1. Après, je sais pas, CE2, CM1, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu la naissance de mon dernier petit frère, tu vois.
Okay.
Et là, j'ai commencé à kiffer peut-être un peu trop les meufs et le bordel, on va dire. Okay.
Le dernier, c'est Louis ?
C'est Logan, c'est le dernier. Logan. C'est Logan le dernier.
C'est Logan le
dernier ? Ouais, c'est Logan le dernier.
Okay, okay.
Logan, c'est... Louis, j'avoue, Louis fait jeune, en fait.
Ouais, il fait jeune, oh.
C'est Louis qui fait jeune. Louis ? Ah, je vais te balancer un jour.
Logan, il fait grand balèze.
Ouais, il fait grand balèze, tout ça, mais c'est le plus petit, c'est le dernier, c'est le bébé de la famille, Logan. Et voilà, moi je suis le deuxième, j'ai une grande sœur. Et du coup, ouais, après, à partir de, on va dire, sixième, j'avais plus vraiment de but dans ma vie, on va dire. C'est-à-dire, j'allais à l'école, mais vas-y, je me suis fait engrais. Non, je me suis pas fait engrainer parce que c'était moi l'engraineur en vrai. Mais je commençais à foutre un peu la merde, etc. Et c'était. J'étais un peu. Voilà, ma mère, elle était pas trop fière de moi, tu vois. J'avais des avertissements de conduite et tout. Parce qu'en vrai, j'ai trop d'énergie. Ça fait que fallait que je. En tout cas, à l'époque, fallait que je dépense de ouf, tu vois. Et en cours, j'arrivais pas à écouter. J'étais. Mais j'avais des bonnes notes en soi. Genre, je foutais le bordel, mais j'avais tout le temps des bonnes notes. J'avais tout le temps mon 13, etc. Et les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais comment toi, tu fous la merde et t'as des bonnes notes ?
Ouais.
Je disais, ah, je sais pas, moi, c'est vous êtes bizarre, les gars. Vous êtes là, vous êtes sérieux, vous avez des mauvaises notes. C'est vous qui êtes bizarre, tu vois. Et voilà, c'était ça un peu mon comportement à l'école. Et après, ça a changé un peu vieillissant.
Okay.
Ça a changé beaucoup, même, vieillissant. Mais ouais. Plus jeune, j'étais un enfant turbulent.
Ok, et ça jusqu'au même au collège, t'étais turbulent.
Au collège, ouais, c'est là où j'étais à mon pic de turbulence. En fait, j'étais à Gagny à l'époque dans le 93.
Okay.
Et après, j'ai déménagé à Montfermeil.
Ok.
Et Gagny, c'était calme, et Montfermeil, c'était zbeul. Ça veut dire que moi, je suis rentré dans le délire zbeul encore plus, tu vois. Et là, vas-y, j'ai commencé à, voilà, tu vois, pas être sage, on va dire, tu vois. Mais c'était l'époque. En fait, si tu veux, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que on allait à l'école quand on était plus jeune. Mais on savait pas vraiment pourquoi on y allait, parce que les darons disaient d'y aller.
Okay.
Donc on s'asseyait, mais c'était juste une bande de réunion de potes. Et voilà, on parlait entre nous, on calculait pas, tu vois.
Ça. Mais toi, tu kiffes l'anglais, ça veut dire qu'il y avait peut-être au moins en anglais où tu kiffais apprendre des trucs, peut-être, non ?
Bah en fait, l'anglais, j'aimais bien. L'anglais, en fait, comment je suis tombé dans le délire canary, anglais, tout ça, c'est parce que depuis que je suis tout petit, je suis tombé dans le basket. Depuis que j'ai allé 5-6 ans, il y avait un cléon à moi qui me ramenait des magazines de basket, des trucs, et je m'amusais à dessiner des Charles Barkley, tu vois, les chaussures, les wings, les tout ça, je kiffais grave. Et je suis tombé dans le basket et je me suis rendu compte que c'était toute une culture en fait, avec les livres, les cassettes, Space Jam qui est sorti et tout. Et ouais, du coup, je m'intéressais un peu à l'anglais parce que même quand il y avait des trucs qui sortaient, j'avais envie un peu de comprendre. Donc en anglais, ça allait, j'avais des bonnes notes. C'était une matière où j'avais des bonnes notes quand même.
Okay.
L'anglais, ça allait.
Ok, et là, à ce moment-là, t'es toujours dans un délire un peu. Aucune ambition, genre tu penses pas à l'avenir.
Non,
t'es
du tout.
Mode, tu vis le moment, tu délires avec toi, t'es fin, tu vois.
En fait, encore au collège, je croyais que j'allais être joueur NBA. Hein.
Personne t'a dit.
Non, parce que j'étais pas nul. Hein. Voilà. Bon, là, je suis nul, rouillé de ouf. Là, je suis exterminé au terrain, je pue la merde. Mais à l'époque, j'étais pas nul, tu vois.
Okay.
Donc, à chaque fois qu'il y avait des trucs, des détections, j'étais pris, j'ai joué. Enfin, il y a eu plein de trucs, tu vois. J'avais quand même un niveau. Après, tu connais, hein, blessure genou droit.
Oui.
Le pire, c'est que c'est vrai.
Oui. Et t'as joué à quelle nouvelle ? T'as joué.
Non, en gros, j'ai fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué dans. Bon, c'était à l'époque.
Il y a des joueurs de basket ici. Ça veut dire si.
Non, non, c'est vrai. Il y a qui là qui joue au basket là ?
Ok,
lourd. Bon. Ben, en gros, j'avais commencé à jouer bon dans mon club dans le 93 à Gagny. Après, j'ai joué dans la sélection 93.
Okay.
Et après, j'avais commencé. Je faisais des petits trucs à droite, à gauche. Et j'ai commencé des entraînements. Avec c'était quoi le PBR à l'époque, et après, okay. Après je me suis blessé, j'ai arrêté, et quand je me suis blessé, vas-y, j'ai trouvé une autre activité, les meufs, et je me suis mis à fond dedans.
Ah ouais.
Ouais, c'était une autre activité à l'époque. Mais c'était vraiment ça, c'était comme ça que j'étais, voilà. Okay. Quand j'étais plus jeune.
Et du coup, collège, ça passe.
Ouais, collège.
T'as quand même ton brevet, tout ça.
Ouais, brevet. Mais d'ailleurs, j'ai redoublé ma troisième, mais j'avais le brevet. J'ai eu le brevet, j'ai redoublé ma troisième.
Okay.
Donc l'année d'après, je sais pas, mes cours ils sont arrêtés en mai.
Ok,
voilà. Ah, oh, beau gosse. Ah, oh là là, j'adore ça, la clim.
Ok.
Ouais.
Et du coup, après, lycée, c'est comment ?
Lycée, j'arrive dans un lycée qui a aucun rapport avec Montfermeil. Okay. Tous mes gars, en fait, on m'a séparé de tous mes gars. C'est-à-dire que moi, la conseillère d'orientation, elle me disait, bon, toi, c'est un lycée à Clichy-sous-Bois qui s'appelle la Fred Nobel, va en BEP électrotechnique, il y a des gens comme toi là-bas. Et ma mère, elle me dit, si tu vas en électrotechnique, tu restes plus à la maison. Elle me dit, là, c'est mort. Toi, tu vas en général ou rien.
Okay.
Donc vas-y, me suis battu un peu, je suis allé en général, mais tous mes potes ils ont bougé. Donc je me suis retrouvé dans un lycée qui était complètement différent, un lycée au Rincy, un lycée carré, etc. Et là, bah, je pouvais plus foutre la merde comme avant, etc. Donc ça m'a un peu calmé. Et, dès le début, ils m'ont calmé. Hein. J'ai voulu faire 2-3 tentatives, ils m'ont viré direct. Tu vois, ça m'a calmé. Et après, bah, on va dire que j'étais droit. Et puis on m'avait mis la pression, on m'a dit ouais, si tu j'avais eu un truc genre si t'es absent tant bah t'es viré définitivement du lycée. Et après tu vois, je m'en souviens j'ai eu aucune absence, j'ai fait le tout ce qu'il fallait pour que voilà. En fait, je le faisais pour ma daronne en vrai. Okay. En vrai de vrai, à cette époque-là, c'était en mode vas-y, par respect pour ma daronne, vas-y, j'en ai marre de l'avoir pété des câbles et tout, donc je veux faire les choses bien. Donc du coup, j'allais au lycée, j'ai fait une seconde générale, après j'ai fait un maintenant c'est STMG je crois, mais enfin je sais pas, j'ai fait ST.
Management, tout ça, là.
Ouais voilà, et moi à l'époque c'était STT, STG, et j'ai fait ça. Et après j'ai eu mon bac au rattrapage.
Ok.
Mais je l'ai eu. Et voilà.
Et pour toi c'était objectif bac du coup. Et après t'avais pas de vision.
J'avais pas de vision du après.
De ouf, c'est grave chelou là, on dirait t'arrives jusque là. Un peu en mode.
Ouais, en mode je m'en bats les couilles. Je
fais... Son but c'est d'avoir des bonnes notes. Après il allait voir les meufs et rentrer, il dormait.
Mais c'était ça, c'était vraiment ça ma vie à l'époque. C'était ça. Et en première, non, par contre en première j'ai découvert le crump.
Oh, okay.
La danse, le crump. Et là, une autre matrice en fait. C'est à dire que là, ma vie après c'était plus les meufs, c'était le crump. C'était le crump.
Les meufs qui
que...
dansent.
Genre, et, ouais, plus... c'était que ça, c'était que le crump. C'est à dire que première, terminale, c'était que le crump. Le crump, le crump, le crump. Et là j'ai commencé à me faire un nom dans cette danse, mais un nom de ouf. C'est-à-dire, je commençais à danser. Après, je m'en souviens, Skyrock qui m'avait appelé. J'ai dansé avec Chris Brown. De là, je me suis lié avec l'équipe de Chris Brown. À chaque fois qu'il venait à Paname, il m'appelait. Et vu que dans son équipe, il y avait des gros crumpers de LA, bah, je m'étais bien mis avec eux. Et ensuite, à partir de ce moment-là, mon seul objectif, c'était de partir à LA et aller faire du crump à LA. Okay. Genre, et de ma première à terminale, c'était que ça.
Ça veut dire, t'avais quel âge? 17 ans?
Ouais, 16-17 ans, ouais, ouais, tout ouais, ça. Tout ça ouais.
Donc, elle a vécu des vrais trucs.
Du coup, des anecdotes de ouf à cette époque-là. Genre, j'étais inconnu au bataillon, mais tu vois, c'était l'époque des blogs. Et vu que je crumpais et que j'étais proche, plus ou moins à l'époque, en tout cas, des potes de Chris Brown, de son équipe, bah, il y avait des blogs fans de Chris Brown qui faisait des trucs, oh, l'ami Balou, l'ami de Chris Brown, etc. Okay, okay, okay. Et non. Du coup, ouais, voilà. Non. Du coup, c'était un délire, tu vois, mais...
Et tu découvres comment le crump, du coup?
Parce que moi, je le découvre, ma daronne, elle me ramène le Rise. Elle me ramène le DVD de David Lachapelle, Rise.
Ok.
Et là, vraiment, je prends une claque, moi et mon petit frère, Louis, on prend une claque, et on se met à fond dedans, tu vois. On se met à fond dedans et on lâche pas. Et après, du coup, en terminale, vient la fin de l'année, et la conseillère d'orientation, elle parle de plein de BTS et tout. Et elle dit, ouais, il y a le commerce national et vous pouvez voyager. Après, je dis, voyager, où on peut aller où? À LA. Fait, ouais, bon, c'est pas facile de trouver un stage à LA. Et là, ça y est, là, mon choix, il est fait. Moi, je vais en BTS commerce international.
C'est-à-dire, tous les autres dans la classe, ils disaient, ouais, moi, je vais faire la préfecture de Paris, mais je vais faire un truc à Paname. Ah,
moi,
et toi, tu dis.
Ouais, moi, je me suis dit, vas-y, je veux découvrir le crump à LA.
Ok.
Et après, voilà, je suis allé en BTS commerce international, tu vois.
Ok.
Et t'as jamais été à LA avec le commerce international?
Si, j'y étais.
Lourd,
j'ai... Bah, je suis arrivé en BTS commerce international. Le premier jour, j'ai dit à la prof, comment je dois faire pour aller à LA en stage? Elle m'a dit, hey, calme, ça vient après, nanana. Et la prof d'anglais, j'arrêtais pas de la saouler. Faites-moi une lettre de motivation, un CV, comme ça j'envoie et tout. Lourd. Et tout le monde me disait, tu vas jamais y aller, tu vas jamais y aller. Et moi, j'ai tapé mon CV en anglais, j'ai fait corriger par la prof. Et première semaine de septembre, j'envoyais à tout le monde, hein, tout ce que je voyais. Hein. Dr. Dre, j'allais sur les MySpace à l'époque, je prenais des emails, j'envoyais à tout.
Non.
Genre, c'était 40 emails par jour parce que je voulais y aller. Et j'ai eu une réponse via le site craigslist.org à l'époque. Et
pour ceux qui connaissent pas Craigslist, tu peux expliquer ce que c'est?
Ouais, Craigslist, enfin je sais même plus si ça existe toujours, Craigslist.
Non, ça existe toujours.
En gros, c'est un site qui référençait plein d'annonces de jobs, d'appartements, de...
En vrai, c'est grave un équivalent de Le Bon Coin, tu
vois. Ouais, voilà, c'est
Le Bon Coin, maintenant, c'est devenu une plateforme qui te permet autant d'acheter des objets que de trouver un appart, ouais, que de trouver un job,
exactement,
tu vois. Mais en gros, Craigslist, c'est un peu l'ancêtre, en vrai.
Ouais, de fou, c'est ouais, ça, c'est ça, totalement. Et là, j'ai un mec qui me répond, il me dit, ouais, je suis chaud pour te prendre. Et c'était un truc qui s'appelait Project Playlist.
Okay.
Et c'était une filiale de MySpace, en fait, à okay, l'époque. Qui faisait les playlists de MySpace, tu vois. Mais moi, je savais pas trop, donc j'ai dit, vas-y, bah, moi, je suis chaud. Après, j'ai taffé au centre aéré. Et j'ai dit à ma daronne, bon, maman, moi, en été, je vais à LA. Ma daronne, elle me prenait pour un fou, moi, ma daronne. Ma daronne m'a toujours pris pour un fou depuis que je suis petit.
Okay.
Elle m'a toujours pris pour un fou. Et du coup, bah, elle y croyait pas, tu vois. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, les États-Unis, tu vois. Tu connais, en plus, on entier. Nous, les États-Unis, c'est trop loin pour nous, tu vois. J'ai regardé les billets, je suis allé à l'époque à l'agence de voyage. Ah, j'ai taillé, hein, frère. je prends un appart, j'ai été. Hein, j'ai...
À cette époque-là, t'avais des connaissances du coup là-bas, t'as été.
J'avais un gars que je connaissais sur MySpace, tout, okay. Qui s'appelait Rascal, qui est devenu là mon.
Ah, c'est lui, ok.
Ouais, c'est lui. Okay. C'est... J'avais qu'un seul gars que je connaissais sur MySpace avec qui je parlais. Et je me suis dit, vas-y, lui, il me parle bien, j'y vais. J'ai trouvé un appartement à Olympic Boulevard à l'époque, et j'y étais. Hein.
Ok.
J'étais avec un gars à moi, parce que du coup, j'ai réussi à l'incruster dedans. Un gars à moi de ouf à l'époque. Et on est parti. Et après, je suis arrivé à LA, et là, c'est là où ma vie actuelle, là, elle a commencé, en fait.
Ok. Parce que j'avoue, quand on regarde Balou de l'extérieur, la connexion avec les États-Unis, elle est trop intrigante, tu vois.
Ouais,
en gros, on capte pas d'où ça vient. Et des fois, on te voit dans des voitures avec Offset. Le lendemain,
là, il fait du shopping, il fait des vannes. Tu fais quoi?
C'est totalement improbable, tu vois. Mais du coup, il y a bien une suite à cette histoire, tu vois. Qu'est-ce qui se passe après ça, tu vois?
En fait, ce qui se passe à LA, c'est que moi, mon gars Rascal, il me prend sous son aile. Et il me ramène chez lui, tu vois. Et là, quand j'arrive chez lui, bah lui, il était dans le crump à fond. Donc là, je me retrouve avec tous les crumpers que je regardais en DVD et tout, tu vois.
Okay.
Et là, je suis comme un ouf. Je me dis, ouais, dinguerie, frère. Je suis avec tous les crumpers, etc. Pour moi, c'était. Là, j'étais arrivé summum, tu vois. Okay. Et puis, on se retrouve, on dort tous par terre, je m'en souviens. On s'entraîne tous les jours, on fait que ça, du coup. Et j'étais parti.
Ça veut dire le stage.
Ouais, le stage, j'y étais. Mais attends.
Tout à l'heure, il en parle pas du tout.
Attends,
là-bas, j'ai juste dansé,
moi. Je vais arriver au stage, tu vas être choqué parce que le stage aussi, il a une incidence sur ce que je fais aujourd'hui, en fait. Okay. Donc, du coup, ça, c'était. Je suis parti 2-3 semaines avant le stage, tu vois. Donc, j'ai fait 2-3 semaines chez mon gars Rascal. Et après. Et justement, pendant ce délire-là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on danse, on met des vidéos sur YouTube et tout. Il y a des vidéos à moi sur YouTube. Tu tapes, à l'époque, je m'appelais French Rascal. Il y a des vidéos à moi sur YouTube, okay, où je dansais. Et là, un jour, il y a un gars qui appelle mon gars Rascal et qui lui dit, ouais, moi, voilà, c'est T-Pain, t'es chaud pour danser pour moi et tout.
T'as dit quoi?
Mon gars, il dit, ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il raccroche. Il rappelle, il dit, non, je te jure, c'est T-Pain. Il re-raccroche. Une troisième fois, là, c'est une meuf qui appelle et elle dit, oh, c'est un malade jeu, c'est l'équipe, bababam. Et là, T-Pain, il débarque. 2007 à son prime. Donc je me retrouve là à LA avec T-Pain, Rascal, tout ça. Et T-Pain il dit, Rascal, bah voilà, je veux que tu sois mon danseur, c'est $4,000 par semaine, vous m'apprenez un peu le crump, vous m'apprenez à danser ci, ça, ça, et on y va. Et là, ça se passe trop vite. 4-5 jours après, Rascal il est à Paris. Et moi je suis chez lui, à LA. Il est à Paris, au Bataclan, tu peux voir avec Rick Ross, etc. Et moi je suis chez lui à LA. Et lui il part à Paris avec T-Pain. Et du coup, il m'appelle, il est à Paris, histoire de ouf, hein. Il m'appelle, il est à Paris, il me dit, ouais, il faut ramener des meufs, etc. Donc moi, j'appelle Louis à l'époque. Non, mais des histoires de baisers, j'appelle Louis, je lui dis, ramène des meufs pour Rick Ross, tout ça. Et Louis, il avait quoi, 15 ans, tu vois, 14 ans, je sais même plus, il était tout petit. Il me dit, mais comment je vais trouver ça? Je lui dis, t'inquiète, je fais des passes sur MSN et tout. Et mon petit frère, après, s'est retrouvé avec, bon, du coup, il a été qu'avec des mecs, puisqu'il connaissait aucune meuf, mais s'est retrouvé en face de Kanye, T-Pain, Rosé. Comme ça, voilà, tu vois. Et c'est parti de là, tu vois.
Ok. Mais. Ça n'a aucun sens.
Ouais, ma vie, c'est South Park en vrai, ma vie.
Gros, ça fait de 0 à 100.
Ouais, mais c'est exactement ça. 0 à 100, le son de Drake, totalement. Drake.
Et mais du coup, là, c'est ton focus, il est que danse ou
genre... Ouais, là, et mon focus, il est que danse. Okay. Là, je suis choqué de ouf.
Mais ça, c'est 3-4 semaines avant que tu commences le
ça,
stage.
C'est une semaine et demie.
Attends, t'as fait combien de temps là-bas, du coup?
J'ai fait 3 mois.
Imagine toutes les semaines, t'as dingue comme un sush.
Ça, c'est une semaine et demie. Donc du coup, moi, je suis kécho, tu vois. Et même dans les gars avec qui j'étais chez Rascal, il y en a qui sont devenus super connus. Il y en a un, il s'appelle Casper Smart, il est sorti avec Jennifer Lopez. Okay. Il y en a deux autres, c'est les Reject, Moui, etc. Ils ont créé la danse, le 4 Daddy. Donc en fait, tous les crumpers, on était connectés à des gens de l'industrie, tu vois. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu me connecter un peu avec tout le monde. Et après, je suis allé à mon stage. Et mon stage, en fait, c'était Project Playlist. À l'époque, comme j'ai dit, c'était le délire qui faisait les playlists de MySpace. Et le délire, c'est quoi? C'est que les mecs, ils viennent. J'étais avec mon pote. Mon pote, il arrive en costard. Moi, je suis allé en habillé normal. Et en fait, c'était deux jeunes Renois qui géraient ça. Ils étaient vraiment jeunes, tu vois. Ils devaient avoir 23, 24. Ils me disent, oh, les gars, venez pas en costard, venez. Là, votre job, c'est quoi? Vous devez faire quoi? De la prospection client et tout. Ok, vas-y, pas de galère. On va faire quoi? Là, vous allez vous poser toute la journée, vous allez écouter les sons de notre playlist qui sont morts. Toi, t'aimes bien qui ? Je lui dis Lil Wayne. Il me dit t'écoutes tous les sons Lil Wayne. S'il y a des sons qui sont morts, tu nous les répertories. Okay. Et toi, tu vas faire ça, ça, ça. Et justement, dans la prospection client, ce qui est cool, c'est que vous allez envoyer des emails à ceci, cela, à des clients, à des gens qui pour s'abonner à la page. Ça va être ça votre manière de faire de la prospection. Donc, on faisait un peu du mailing de masse à l'époque. Et puis un jour, j'oublierai jamais, ils nous ont dit ouais, là on a un gros casting puisqu'on fait un événement à UCLA il faut juste c'est caster que des modèles, des top modèles et tout, okay. Parce qu'on veut que ça soit eux qui veut que ça soit les modèles qui gèrent notre stand, etc. Donc je me suis retrouvé 2 semaines après T-Pain à caster toutes les modèles de LA.
Les meufs, la danse, que le les rap. Meufs,
wesh. Donc, moi, je suis là, je dis, mais c'est quoi cette vie, wesh? Ça fait 2 semaines que je suis à LA et ça va trop vite comme ça. Je me dis, mais c'est une dinguerie, mon frère.
Ma mère, elle demande comment ça se passe.
Ma mère, ouais, elle me demande c'est comment et tout. Nanana. Je lui dis, ouais, tout se passe bien, ça va.
J'envoie Louis voir Kanye West au Bataclan avec des meufs. Ouais.
Et je lui dis, ouais, ça va, c'est carré ma vie, tu connais, tu vois. Bon, c'était un peu la hesse, hein, parce que l'argent, ça partait vite, je m'en rendais pas compte, tu vois. Donc, à la fin, je mangeais des hot dogs à 99 cents, là. C'était compliqué, mais je kiffais, parce que j'étais à LA, je faisais des sessions de crump avec les plus gros crumpers. Et voilà, tu vois. Mais j'ai tout vu. Franchement, ces 3 mois-là, j'ai tout vu. Genre, j'étais tous les jours avec un mec. J'étais tous les jours avec un mec, rest in peace, s'appelle Lil Rascal. Un jour, c'était vers les dernières semaines, il m'appelle pour venir à une soirée à lui. 10 minutes après, on m'appelle, il s'est pris une balle dans la tête. La vie de ma mère, j'ai tout vu là-bas. Vu que vraiment, le crump, c'était dans le hood. Donc, tous les gars qui crumpaient, c'était des mecs de Crenshaw, des mecs de Long Beach, des mecs de Compton, des mecs des Watts, quoi, des mecs des quartiers, tu vois. Donc, j'ai vraiment tout vu. J'ai vu le truc policier un peu délire. Je me suis fait contrôler plein de fois par les keufs, mais en mode vraiment arme vénère et tout. Et moi, j'étais choqué, tu vois, à chaque fois. J'ai tout vu. J'ai vu le côté positif et le côté négatif. Mais j'ai pris une gifle de fou, quoi. J'ai vraiment pris une gifle de malade.
En voyant tous ces trucs-là, est-ce que genre t'aimais moins les États-Unis, genre ?
Bah.
Parce qu'en gros, là, avec tout ce qui se passe récemment aux États-Unis, on voit que le regard des gens, il change un peu.
Ouais. On va dire que c'est
pas vécu de l'intérieur.
On va dire que c'est une raison pour laquelle je faisais que des allers-retours, que je voulais pas m'installer là-bas. Parce que je voyais quand même des trucs bressons. Mais après, quand t'es en dehors, là, c'est vraiment les gars du Watts, du quartier. Dans le hood, c'est vraiment la merde. C'est la merde de ouf. Mais quand t'es en dehors et si t'habites, Beverly Hills, t'as rien, tu vois, c'est calme. Mais vraiment, j'ai vu le côté positif de ouf et le côté négatif. Mais c'était une expérience de fou. Quand je suis rentré, après, juste le délire, c'est quand je suis rentré, j'étais tricksman. Pour moi, j'étais un carré. Je rentrais, you know what I'm saying, j'étais fou. Et j'étais fou. Après,
c'est sûr, tu reviens à Gagny, c'est sûr, bien sûr.
À Montfermé, là. Et les gars de Montfermé, tu connais, ils me prenaient pour un fou. Il me disait, wesh, mais toi t'es un fou. Et il m'appelait Tony Parker. Parce que pour eux, Kenry, c'est Tony Parker. Tu connais ? Il me disait, ouais, Tony Parker. Après, bon, et bref. Mais c'était spécial en fait. J'étais l'ovni de Montfermé.
Et du coup, tu reviens de ton stage.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Tu retournes en cours normalement ?
Ouais, non, là, je calcule plus les cours. Là, enfin, j'y vais, mais je m'en fous un peu. Je me dis, vas-y. Là, j'ai un pied avec T-Pain, j'ai un pied avec un tel. Donc, je commence à créer une assoce à l'époque et je commence à faire des événements, des cours de danse tous les samedis. Okay. Et tous les samedis, j'ai 200, 300 personnes dans ma salle.
Okay. Et c'était où ça ?
C'était à Montfermé. Okay. Ouais, je ramenais. Et après, j'ai commencé à faire des événements. C'est devenu de plus en plus gros. Et des événements qui réunissaient à la fin 1000, 2000 personnes, tu vois.
Ok.
Et c'était une dinguerie en vrai. Dans le crump, j'étais la tête du crump en France. Okay. Je faisais partie du top 3 du crump en France à l'époque. Genre vraiment, vraiment, tu disais Balou à un crumper, même au States, tu vas voir n'importe quel crumper, tu dis Balou, il va dire oh, French Rascal, he killed that. Genre il va te dire ouais, il est trop chaud. Genre c'était
il
vraiment
m'a traduit. Ça.
Tout le monde ne parle pas anglais.
Non, en fait, je l'ai dit en anglais. Je me suis
il a fait.
Non, je l'ai dit en anglais, je me suis foutu le seum d'avoir dit en anglais.
Okay.
Donc voilà, c'est ça le délire. Donc ça part de là en fait. Et ouais. Ouais,
mais là tu parles toujours pas de médias.
Ouais, de médias. Ah ouais.
C'est dire là tu reviens.
Je reviens, je continue le crème, je fais des tournées, je fais des délires, nanana. Je rencontre encore plus d'artistes, beaucoup d'artistes. Je rencontre Omarion, je danse pour Will.i.am, je fais plein de trucs, plein de connexions. Et à un moment, vas-y, T-Pain, il vire mon gars Rascal. Il nous calcule plus trop parce que vas-y, il était dans des embrouilles, cash money, etc. Donc okay. Il arrête la musique pendant un moment. Et là, on se rend compte, ah ouais, en tant que danseur, on dépend trop des artistes.
Okay.
Et on a un gros meeting avec mon gars Rascal et tout. Et il me dit, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Il me dit, mais avec tout ce que t'as vu ici, aux States, gros, fais un média. Tu fais un média comme Warstar Hip Hop, et là, tu partages avec tout le monde, tu vois. Et moi, je réfléchis, là, on est en 2012, hein, et là, je réfléchis, je dis, vas-y. Et je lance un média qui s'appelle Roi de la Rue.
Okay.
Roi de la Rue. Et à l'époque, pour lancer le média, je fais un festival dans mon quartier, et avec des gars de mon quartier qui s'appellent, bah, qui ont une marque, là, c'est Rien, c'est la Rue.
Okay.
Zou, grosse force à Zou. Et on lance un festival, et là, on invite plein de rappeurs, on invite Sadek à l'époque, Fab Baby, Sultan, Esprit Noir, Style Fresh, on ramène tout le monde. Vraiment tout le monde.
Et c'est les connexions de la danse encore qui t'ont aidé à avoir.
Là, c'est.
Ouais, je me demandais d'ailleurs, là, le crump, en vrai, ça a explosé en France et. Il y avait vraiment une scène de fou.
Ouais, il y avait
comme
une
aux States ou.
Il y avait une scène quand même. Il y avait une scène.
Mais moins qu'aux States.
Non, ça moins que. Non, ça avait pas de rapport. Non, ça avait pas de rapport avec les States, mais il y a quand même eu des événements, des délires, etc. Tu vois, je t'ai dit, j'ai fait un événement en 2009, j'ai ramené 1000 personnes, donc il y avait quand même un engouement. À Montfermeil, je tiens à préciser, 1000 personnes à Montfermeil. Donc il y avait quand même un engouement, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'avait pas l'impact des States. Parce que c'est une danse un peu chelou, tu vois aussi. Quand tu nous regardes, tu te dis, on est des fous.
Et surtout, en durée, la mode forte du crump, elle est passée un moment.
Ouais, elle est passée, ça fait 3-4 ans après, vas-y.
C'est-à-dire, même toi, à ce moment-là, tu t'es dit.
En fait, moi, j'ai arrêté avant que la mode s'arrête.
Okay.
Donc, j'ai eu un coup de chance, tu vois, on va dire. Et ouais, j'ai arrêté carrément avant, et là, je lance mon média, tu vois. Et je fais un premier média qui s'appelle Roi de la Rue. Roi 2 avec un 2 la rue. Et d'ailleurs, il y a des vidéos toujours sur internet, des interviews de Gizmo, des freestyles, etc. Et je tente vraiment tout. Là, c'est vraiment, je tente tout. Je fais des interviews, mais je me montre pas, etc. dans les interviews au début. Et après, je me dis, bah, en vrai, là, j'ai fait grave des connexions aux States, etc. Vas-y, viens, je commence à faire des interviews avec des canaries, tu vois, parce que en vrai, je les connais tous quasiment, les gars, etc. Et là. Je contacte Kid Ink, à l'époque il était hot, tu vois, et c'était le mec du moment, 2012-2013. Donc j'envoie un message, je me présente.
Je sais même pas si les gens qui écoutent, ils voient encore qui
ouais,
c'est.
Ouais, tu vois, il avait des gros sons avec Chris Brown, Show Me, Hotel et tout. Enfin, non, ça c'est avec R. Kelly, chelou. Mais du coup.
Le meilleur son de Kid Ink, moi, c'est Keep It Rolling.
Ah, Keep It, ouais, il est chaud celui-là, ouais, il est chaud. Et du coup, je lui envoie un email. Et ces gars, ils me disent, bon, je bluffe un peu dans l'email, je gonfle un peu les stats, je dis Roi de la Rue, voilà, un million de trucs, de visites, ouais, voilà, de visites à l'époque, je gonfle un peu. Et tu connais les carrés, ouais, ils entendent visite, ils voient, ils disent, ah, vas-y, let's go. Et là, je fais une interview avec. Non, là, je cale une meuf qui était dans mon équipe pour qu'elle fasse une interview. Moi, je voulais pas me montrer à l'époque.
Okay.
Parce que quand j'avais vu tout le délire de Fame, de T-Pain, nanana, comment ils vivaient, je dis, non, moi, je valide pas ce délire-là, etc., tu vois. Et la meuf, une semaine avant l'interview, elle me met un plan. Elle me dit, oh, finalement, j'ai envie de me concentrer sur un truc plus sérieux et me mettre dans une école de journalisme vraiment, etc. Mais je lui dis, mais là, tu fais du journalisme direct. Pourquoi tu veux aller dans une école? Elle me dit, non. Donc là, on se pose avec mes frères, mais mon gars à l'époque, Busy, etc. Et on réfléchit, on dit, putain, mais qui va faire? Et là, je dis, vas-y. Ils me disent tous, mais gros, toi, t'es fou, t'as tout fait, tu sais parler anglais, t'as mis en galerie, vas-y, fais. Je leur dis, moi, les gars, je suis pas un journaliste, je suis pas dans ce délire et tout. Ils disent, vas-y, fais. Et là, je dis, vas-y, je vais faire. Et en gros, je suis parti dans un délire. À l'époque, je m'étais inspiré un peu de This Is 50, etc. Et je me suis posé à côté de lui. Je fais un truc un peu gaulerie, un peu cool. Et j'ai fait une interview avec lui. Et là, de cette interview-là, il y a Mathieu Onlypro de Def Jam qui m'a check. Il m'a dit, oh, t'es chaud pour faire This Is. À l'époque, il m'a dit This Is. Après, il y a eu Mysterio. Après, il y a eu Joke. Et après, ça a fait un effet boule de neige. Et ça a enchaîné. Et puis, le média, à un moment, Roi de la Rue, le nom, il me plaisait plus. Et j'ai changé. J'ai fait un média qui s'appelait French to Def après.
Ok.
French to Def. Et
moi, je connaissais pas Roi de la Rue, mais je connaissais French
to Death. Ouais, voilà, j'ai fait French to Death. Et dans ce média, French to Death, là, j'étais vraiment en mode Warstar. C'est-à-dire que j'avais fait un truc qui s'appelait French to Death Ladies. J'avais pris toutes les meufs de Paname, là, qui font les clips. Et j'avais fait un onglet vraiment où je bookais les meufs dans les clips, l'équipe de Caris, les clips de nanana. Après, vas-y, c'était trop compliqué à gérer ces meufs-là. C'était terrible. Après, j'ai dit, j'arrête. Et voilà, et de là. Il y a Génération qui me contacte. Putain, j'ai lâché des mots là sur le micro, les frères.
La mousse, ouais. Elle est là pour ça. Frère,
ah ouais, la mousse, elle sauve les micros là. Non, ouais, et là, il y a Génération qui me contacte de là.
Okay.
Qui voit un peu voilà, les interviews que j'avais fait, qui s'appelait déjà Le Balouchou à l'époque, mes interviews. Et ils me contactent et ils me disent, ouais, t'es chaud pour devenir animateur.
Pourquoi, genre, à ce moment-là? Parce que moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant, dans ton parcours, t'as tenté déjà 2-3 trucs, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a une espèce de volonté entrepreneuriale, ouais, tu vois.
Bien sûr.
Pourquoi, genre là, par exemple, quand Génération, il t'appelle, pourquoi tu y vas et pourquoi tu restes pas, genre, à faire ton truc de ton côté, tu vois?
Bah, j'ai dit non. La première fois qu'ils sont venus me voir en 2013, j'ai dit non. J'ai dit parce qu'ils voulaient que je sois en CDI là-bas, etc. Et moi, justement, je voulais construire French to Death et le faire devenir plus gros. Et du coup, j'ai dit non, tu vois.
Okay.
Et j'ai continué à le faire à fond. Et l'année d'après, ils sont revenus. Et là, ils m'ont proposé un truc différent où c'est juste vraiment j'anime de mon côté. L'émission, je l'appelle comme je le veux. Je deviens producteur de l'émission en fait.
Okay.
Ils m'ont proposé de produire mon émission. Donc j'ai dit, vas-y, là, c'est intéressant. On va le faire. Et du coup, bah, on va dire que dans ma carrière, à ce moment-là, Génération, vu que c'était déjà. C'est le moment où, où Pascal Sefran, etc., a bougé à Move, etc. Donc j'arrive quand il y a la cassation entre l'ancienne équipe de Génération et la nouvelle. Mais moi, je connais aucune histoire. J'écoutais même pas la radio, frère. J'étais dans mon délire et tout. Donc j'arrive. Et quand j'arrive, j'annonce à mes gars, ouais, je vais être à Génération. Tout le monde me dit, ouais, c'est chaud quand même, tu vas passer après Pascal Sefran, c'est chaud. Moi, je dis, mais ouais, comment ça, c'est chaud? Tout le monde me met la pression de ouf, tu vois. Et je me souviens, le gars qui m'a casté à l'époque, Laurent, il me ramène et il me met devant la console. Il me dit, voilà, tu fais ci, ça, ça. Il m'explique en 5 minutes, bonne chance. Bonne émission.
Hein?
Oh, ça s'est passé comme ça, ça allait trop vite en fait, ça allait trop vite. Bonne émission. Je dis, mais wesh, moi j'ai jamais fait de radio, c'est quoi les bails? Et là, j'apprends vite fait le logiciel, etc. Et vraiment, ils voulaient même, à la base, ils voulaient même pas que je donne un nom à l'émission. Et j'ai commencé mon premier truc. Yo yo yo, c'est Balou, t'es sur le Turn Up Show.
Okay,
et je lui ai imposé en fait le nom, tu vois. Et de là, c'est parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, les gens, ils me voyaient que en Balou de Génération, mais j'avais toujours French Today à côté.
Okay.
Mais comme Génération, c'était plus big, bah, je suis devenu Balou de Génération, tu vois.
En vrai, ça t'a permis de prendre une visibilité que t'aurais pas eu avec, juste avec French Today.
Ouais, voilà. En fait, je l'aurais eu si j'avais continué encore 4 ans, tu vois. Il aurait fallu. Ça m'a donné un impact, on va pas se mentir. Génération, c'était. Bah, c'est Génération, tu vois, à l'époque, c'était la radio, tu vois, c'était big quand même, Génération.
Mais même French Today, en vrai. Quand tu l'expliques et que tu as en premier directement l'interview avec Kid Ink, et ensuite que, du coup, cette interview-là, elle a permis directement de ramener des Français qui étaient quand même
ouais,
assez
grave. Malaise, ouais, grave, grave.
Ça veut dire en vrai, tu avais déjà genre, une certaine crédibilité et le fait qu'ils te ramènent des gros artistes comme ça à l'époque,
ça
prouve que.
C'est ça.
Enfin, t'aurais pu quand même peut-être développer plus le truc. Et...
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
J'ai fait. En fait, je me suis fait. Bon, bref, je vais pas. Non, j'allais dire un truc brosson. Il y a eu des entourloupes, on va dire. Donc, je peux pas rentrer dedans. Mais c'est une. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Genre, j'aurais dû peut-être me focus vraiment sur French Life et continuer à le pousser. Mais en même temps, le fait que j'ai fait Génération, j'ai appris pas mal de choses. Donc, j'aurais pas fait. Si j'étais Baoud aujourd'hui, j'aurais pas fait pareil.
Mmh.
Mais ça m'a appris des choses, etc. Donc, je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai qu'avec French Life, j'avais déjà 40 interviews à mon actif. Hein. Je me souviens, j'avais fait une interview de Joke à l'époque, qui avait bien pris. J'avais fait du monde déjà. J'avais fait des YMCMB, des gens de l'équipe de Young Money, etc. J'avais fait des trucs cool. J'avais fait Mac Miller, solo. Hein. J'avais fait Mac Miller, j'avais fait DJ Scream, là, qui est un gros DJ d'Atlanta, qui m'avait parlé de Migos en 2012 avant que Migos pète. J'avais fait des trucs intéressants, tu vois. Mais ouais.
T'aurais ramené les Migos en premier.
Putain, c'est. Ça aurait été incroyable, tu vois.
Merde, alors.
Ouais,
je pense que t'avais moins la. En vrai, t'avais moins la dimension entrepreneuriale que moi.
Ouais, bah, en fait, c'était le début.
Ouais.
Dire,
je t'amusais, en vrai.
Ouais, je m'amuse. En fait, je savais pas où j'allais aller, tu vois. Genre, j'avais des modèles économiques de, quand même. Parce que. Comme j'ai des proches, bah comme l'équipe de Killing, en fait, je suis rentré dedans limite. Genre, les managers de Killing, c'est devenu ma famille, tu vois. DJ Will et DJ Adrian Switch. Enfin, maintenant, qui s'appelle que Adrian Switch. Qui est mon partenaire, il était venu ici en plus avec Cantu, le grand, le oh, super ouais, grand. Ouais, il est venu. Ouais. Ça date de l'époque, lui. Et en fait, eux, ils m'expliquaient qu'aux States, il y avait Hot New Hip Hop et Dat Piff. Qui étaient des gros sites qui, eux, avaient fait grossir leur audience et après, qui avaient été rachetés à 2 ou 3 millions, etc. Enfin, ils m'expliquaient tout ça. Et moi, j'étais comme un enfant. Je disais, ah, vas-y, c'est ça que je vais faire, etc. Tu vois. Donc, j'avais des rêves, mais je savais pas trop où je voulais aller. Et en même temps, il y avait des mixtapes gratuites sur mon site. Il y avait plein de trucs, en fait. Et c'était un site qu'on avait appris à coder tout seul.
Ok.
Je savais pas qu'on pouvait utiliser WordPress, tout ça, tu vois, à l'époque. Donc, je suis allé sur le site du zéro. J'ai appris HTML, CSS, PHP.
Ah ouais.
Frérot, j'ai mis des 4 mois, yeux rouges, etc. Et en même temps, j'avais pas d'argent. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tout apprendre. Et voilà, tu vois.
Ok.
C'était vraiment ça le délire.
Ça, c'est d'art de fou. Ça veut dire là. Vas-y, tu veux dire.
Ouais, là.
J'allais dire, ouais. En fait, je sais pas si moi, par exemple, en fait, comme tout est arrivé vite dans ta carrière, tu vois, est-ce que, genre, c'est pas ça aussi qui fait que genre, tu. tu vas pas plus loin avec le site, tu vois. Parce que par exemple, si tu commences à faire des interviews, t'arrives avec.
Et c'est mangé zéro mur.
T'as aucun obstacle.
Ouais. En vrai, tout est facile là, clairement, quand tu le racontes. En tout cas, là, comment tu nous le racontes à nous,
en fait,
on dirait ça a glissé, ça veut dire
qu'elle est pas
en fait, ça a glissé. Rentré, il a monté une asso, pop.
Non, en vrai, ça a glissé. Ça a glissé, mais dans la difficulté quand même, parce que j'avais pas d'oseille quand il fallait trouver du matériel. Tu vois, il y avait quand même une difficulté, genre de. Trouver les gens quand même pour faire le genre pour le site, fallait avoir des designers, fallait avoir si il y avait une difficulté, mais c'est vrai que en termes de contact et de gens qui me font confiance, ça a toujours été rapide.
Okay.
Franchement, ça, je sais pas d'où ça vient, mais ça a toujours été rapide. Mais je vais pas mentir que c'est le crème qui m'a ouvert toutes ces portes, en vrai de vrai. Genre, j'avais fait un travail tremond de bâtard dans le crème, que derrière j'avais marqué les gens dans cette danse, donc derrière. Vas-y, j'ai réadapté en fait le schéma que j'avais fait dans le crème, mais dans mon média, tu vois.
Après, je suis pas sûr que. Il y a le crème, c'est sûr, tu l'as expliqué, tu vois, et c'est 100% ça. Mais après, quand t'arrêtes le crème, si en vrai t'es un mec qui fait grave tiep et que t'es un mec qui casse les couilles aux gens et qui est pas cool, frérot, le jour où t'arrêtes le crème, les gens ils arrêtent de te calculer.
Bien sûr.
Ils avancent, tu vois.
C'est le relationnel. Même là, il fait l'interview avec Kid Ink et il se lie de ouf avec l'équipe de Kid Ink. C'est pas un hasard du tout, tu vois.
Ouais. C'est assez rare. Bah, ça, c'est rare qu'on entende ce genre d'histoire où en mode, après d'une interview, ça se passe aussi bien avec un artiste que... Enfin, on va dire ça, que tu fais des interviews et derrière, il y a des bifs sur Internet.
Frérot, on a fait un interview avec toi, t'es assis ici depuis.
Oui, exactement, c'est vrai. T'es bien renseigné.
T'es bien renseigné. Non, mais du coup, en fait, le truc qui s'est passé, par exemple, avec l'équipe de Kid Ink, c'est que, étant donné que moi, on va dire que j'avais une culture de LA un peu, quand j'arrive et je fais l'interview, il fait 5 interviews avant moi, et après, il arrive à moi et voit, je lui parle comme lui, on est dans le délire, je suis habillé un peu comme lui, non, il me dit ouais, where are you from? Mais après, oh, j'ai reparlé en anglais, putain. Non, il me parle, etc. Il me dit ouais, je vais pas le traduire, mais t'as capté.
Tu viens d'où?
Et du coup, il y a un truc qui se fait parce qu'il se dit ah ouais, putain, mais. Et du coup, il me dit ah ben vas-y, toi, tu connais des bons coins à Paname, mais je sais pas, il y a un truc qui se fait, tu vois, naturellement. Et après, voilà, on force pas. J'ai jamais couru après les gens, jamais cherché à faire amitié ou je sais pas quoi. Je suis dans mon truc, je fais mes trucs et
c'est chaud.
Si ça se passe bien, ça se passe bien. Et puis voilà.
Là, on était arrivé à Génération. Du coup, cette période dure. Elle dure. Le show, il fonctionne bien, succès direct. Parce que de toute façon, avec toi, il n'y a pas autre chose que ça. Ah, ça a bien marché direct, c'est ça l'histoire.
Bah, j'ai commencé Génération. Ma première interview, c'était la crime. Okay. La crime, la prison, tout ça, c'était à son must. Donc. Ouais, franchement, ça fonctionne rapidement.
Okay.
Ça fonctionne rapidement, Génération. Et je pense que j'apportais un délire différent. C'est-à-dire que c'était l'époque où toutes les interviews dans le rap français étaient sérieuses. Toutes. Que ça soit sur Bouscapé, que ça soit sur ABCDR, où tu veux, c'était sérieux. Et moi, j'arrive. Ouais, gros, c'est comment les meufs? Ah, c'est comment si? Ah, c'est comment ça? En même temps, j'apprends à faire découvrir l'artiste musicalement. Mais j'apprends aussi à faire découvrir l'artiste sous un autre axe. En fait, moi, je voulais pas être catégorisé comme un journaliste, je voulais vraiment être un mec cool en fait qui parle avec les. En fait, moi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'apporte ce truc là, donc du coup, je me démarque et ça fonctionne quand même, ça fonctionne plutôt pas mal.
Il y a des inspirations, genre en termes de journaliste, peut-être outre-Atlantique, tu vois?
Ouais, il y avait grave des inspirations. Moi, je regardais grave Big Boy Neighborhood, je regardais Charlemagne de God, mais j'ai jamais eu les couilles de faire ce qu'il faisait parce que lui, vraiment, il a des grosses couilles, genre. C'est pas pareil en France, je peux pas arriver à dire à un mec, j'aime pas ton son. Tu vois, il va dire, frérot, on s'attend dehors, tu vois, et après, si tu veux, tu peux pas te battre à toutes les interviews, tu vois. Non, mais Charlemagne de God, j'aimais bien. Bah, comme je t'ai dit, allez, au tout début, le mec de DC Swifty, j'ai oublié son blaze. Sway in the Morning. Ouais, non, franchement, et Nick Cannon, Wild N' Out, j'aimais bien tous ces délires-là, en fait. Les délires où il y a de l'entertainment, etc. Moi, j'ai toujours kiffé ça. La folie, tu vois. Et puis même, les voyages aux États-Unis, c'est le pays de l'entertainment, tu vois. Tu vois, dans la rue, un resto, pour faire sa pub, il y a un mec dehors avec une pancarte qui danse, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, ah, je vais essayer de ramener ce délire-là, tu vois. Et même, j'arrive, j'ai une intro spéciale, yo, je crie, turn up. Les mecs, ils étaient choqués à chaque fois au début, parce qu'ils étaient habitués à un truc plus soft, plus cool, tu vois. Ils disent, ouais, il est fou ce Renaud avec des locks, là, tu vois, des locks blondes, bizarres.
Combien de temps est dure cette période à Génération?
Elle dure 4 ans. Okay. Je fais 2014 à 2000. Ouais, je fais 2000, ouais, 2013-2017, je crois. Ouais.
Et je pense qu'en même temps que ça, il y a un autre truc qui arrive, c'est sûrement sur les réseaux sociaux et comment tu les utilises.
Ouais.
Genre, c'est comment sur Internet à cette époque-là?
Sur Internet.
Toi, quand t'arrives déjà et que tu fais tout ce que tu fais,
ouais.
T'as parlé de MySpace tout à l'heure,
ouais.
Que les gens peut-être connaissent pas forcément,
ouais.
Mais genre, comment les réseaux ils se développent et comment tu utilises ça toi pour prendre de la visibilité et avancer, tu vois.
Bah en fait, ouais, y a, t'as carrément raison. En fait, je fais ça, je suis la génération. Et à côté, il y a Vine qui commence à péter, etc. Et moi, comme je suis un grand débile aussi à côté, à mes heures perdues, je commence à faire des Vines, tu vois. Je commence à faire des Vines, je vois des pages qui me repartagent, best Vine francophone, et je vois ma page Facebook, elle commence à monter. Donc je dis, bah vas-y, on va faire des conneries, vu que les gens, ils aiment ça. Donc j'en fais un peu, et j'oublierai jamais, il y a une anecdote qui m'a choqué. C'est, j'ai fait une interview avec Kendrick Lamar, avec Génération, en 2015, pour To Pimp a Butterfly.
Rien que ça.
Et ah, c'était ouf, c'était incroyable. Ouais, c'était, j'étais comme un enfant, tu vois. Et après l'interview, je la sors, elle fait 50 000 vues en deux semaines. Je suis un peu déçu, tu vois. Je me dis, ah ouais, ça devrait faire plus, tu vois. Et deux semaines après, je sors une vidéo où, genre, je me souviens, c'était une petite anecdote. Genre, j'étais parti manger, j'étais allé commander un McDo. Au lieu de me donner un 280, il y avait un cheeseburger dedans. Et j'étais vénère de ouf, tu vois. Il était 1h du matin, il n'y avait pas Uber Eats. Donc, je suis vénère de ouf. Et mon petit ref, Louis, il me dit, mais gros, fais une vidéo, tu la mets sur internet ou t'es vénère? Et du coup, je m'énerve, je fais une vidéo, je m'énerve et je la mets sur Facebook. Le lendemain, je me réveille, je vois grave, oh MDR, le mec du 280, je vois 1 million de vues. Je dis, mais attends, comment ouais, j'ai fait Kendrick?
J'ai connu cette vidéo.
Ouais. Ouais, je dis, mais comment ça, moi, j'ai fait Kendrick Lamar il y a deux semaines, j'ai 50 000 vues et là, je parle d'un 280, j'ai 1 million de vues. Et je vois plein de gens qui la repartagent et tout. Après, mon petit ref et moi, on réfléchit, on dit, ouais, tu crois, faut que je commence à faire ça. Et après, je commence à rentrer dans un délire où je fais des vidéos d'humour. Mais en vrai, c'est moi sans être moi, parce que j'abusais vraiment sur l'humour. Okay. Donc, je commence à rentrer dans ça pour le buzz, en vrai. Je me dis, je commence à rentrer dans le buzz, en fait. À faire des vidéos, et ça monte. Et ma page, elle monte à 600 000 comme ça. Et à un moment, je me dis, mais attends, je me suis perdu, c'est pas moi ça, en vrai, de base. Et voilà, et ça, c'est un truc où je me suis perdu un peu dans ça.
En vrai, nous, on a connu Balou à peu près à cette période.
Ah, Monroe, il a expliqué ça. Ouais. Il expliquait qu'il t'a connu, en tout cas, avec Facebook et tout ça.
Ah, mais ouais, la plupart des gens qui me disent, ils m'ont connu avec ça, ouais. Tu vois.
Nous, on l'a connu par Facebook, par Génération. Et en gros, à l'époque, on s'occupait de la com du Sneaker 7.
Eh, de ouf, je m'en souviens.
Le premier Sneaker 7. Et en gros, on était venu faire une vidéo. Moi, j'étais pas là, mais on était venu faire une vidéo avec Balou. Et c'était Mike et Elsie, je crois.
C'est en 2014-2015, ça, non?
Et Kusmo aussi? Ouais, 2014, je crois.
Ouais, 2014, carrément.
On était venu faire une vidéo avec lui.
Ouais, pour Sneaker 7.
Et ouais, c'était grave cool, tu vois.
Ouais, c'était cool de fou. Ouais, c'était cool de fou, franchement.
Mais il y avait déjà, tu vois, les espèces de deux casquettes qu'il a encore maintenant, tu vois. Parce que là, le truc, c'est que tu peux allumer ton téléphone, tu peux avoir soit Balou qui te dit, ouais. Qui va te dire un texte super engagé,
Balou était,
tout
en fait,
ça.
T'ouvrais ton téléphone, Balou était partout, genre.
Mais frérot, mais avec
même la radio,
avec trop
de personnalités, Balou qui criait dans la radio.
Il peut te dire un truc sérieux, ou il peut te faire une connerie, où il fait genre de se mettre à poil dans une vidéo, tout ça. Et après, il peut faire une interview avec un rappeur où il te parle un peu de musique, et après, tu vois. Et en gros, il y avait tout le temps ces deux trois personnages, tu vois. Et toi, t'as l'impression qu'il y a un des personnages qui est moins toi, peut-être, tu vois.
Bah en fait, ouais, le délire fou, si c'est moi. Mais à un moment, je l'ai poussé trop loin. À un moment, même moi, je me disais, ouais, je suis un ouf, là. À un moment, même moi, je me disais, ouais. Bon, là, j'ai peut-être abusé. Parce qu'à un moment, les gens, c'était Balou l'humoriste, hein, à un moment. Okay. À un moment, j'étais dans la catégorie Viner, humoriste et tout. Hein. Je voyais des compilations de Vine de moi et tout. Et je regardais, je disais, mais c'est pas là où je veux aller, en vrai, de vrai, tu vois. Et là où j'ai vraiment pris la direction que je veux aller, c'est en vrai, en 2017-2018. C'est. Je quitte Génération. Après, une petite histoire, on va dire, une petite embrouille.
Okay.
En gros, le programmateur, il bouge de Génération. Le programmateur qui est venu me chercher, avec qui ça se passait bien, il bouge. Et là, c'est des nouveaux mecs qui prennent la radio. Mais du coup, leur manière de faire fonctionnait pas du tout avec la mienne. Et je me suis dit, vas-y, plutôt que travailler dans des conditions que j'aime pas, autant que j'arrête. Et là, j'arrête et je vais à Ocalm, tu vois.
Du coup, c'est au moment où Ocalm se lance ou ça avait déjà
un... Non, ça avait déjà... Non, ça avait déjà une année, je crois. Okay. Une année ou deux années. C'était en 2017. Okay. Donc, je sais plus si c'était lancé en quelle année. Peut-être
je
deux ans.
Plus.
Peut-être.
Mais à ce moment-là, genre, le projet d'Ocalm, il t'avait séduit, genre.
Ouais, en gros.
Quand ils sont arrivés.
En gros, en vrai, j'étais. En fait, j'étais. Je vais t'expliquer, j'étais dans l'entrepreneuriat, mais pas encore à 100 000% comme maintenant.
Okay.
C'est-à-dire, j'avais mon site, j'avais mes trucs, Voilà, je produisais mes délires, mais j'étais pas comme maintenant. Donc, quand je vois Ocalm, moi, Ocalm, je kiffe pour nous, par nous. Je communique un peu avec à l'époque celui qui bossait à Ocalm, etc. Romain d'Ocalm, et on s'entend bien, tu vois. Et je lui dis ma vision, il me dit sa vision, et vas-y, et on avance, tu vois. Et puis à Ocalm, je commence à faire, ça a joué beaucoup parce que je commence à faire justement. Bah là, ils me disent carte libre, tu fais ce que tu veux. C'est pas. Bon, à la génération, c'était lourd, mais ça reste quand même une radio. C'est-à-dire qu'il y a des codes à respecter dans la radio. Tu parles 30 secondes, après il y a un son. Tu parles une minute, après il y a un son, etc. Et là, on me dit carte libre, tu choisis les sons que tu veux mettre. Tu nanana, tu vois. Là, je dis, t'es sérieux? Moi, tu vois, je sors de la radio, je dis, t'es sérieux? Ok, vas-y. Donc, je vois un peu le setup, etc. Et d'un côté, quand je regarde le setup, je me dis, mais. Moi aussi je peux le faire en vrai, ça, tu vois, j'ai ce truc là, mais en même temps je me dis vas-y on y va, au calme ils ont une visibilité, on y va, on le fait. Donc je le fais, et là vraiment je kiffe de ouf, parce que là je parle de ce que je veux.
T'avais un créneau du matin là-bas?
Ouais, matin, okay. C'était 7h-9h,
okay.
Et à chaque fois on était en tendance, etc, tu vois, donc c'était cool, tu vois. Et je kiffe, je peux gérer le truc comme je veux, ça se passe comme je veux, etc, donc je kiffe de fou. Après, il y a un gars de mon équipe qui fait une petite erreur qui plaît pas à Booba, et après je me fais virer de là-bas.
C'est quoi l'erreur du coup?
En gros, parce qu'à l'époque, mon site il a encore changé, il s'appelait plus French Today, il s'appelait Le Baloucho, tu vois.
Ça veut dire qu'en même temps qu'au calme, tu continuais?
Ouais, je continuais. Donc déjà, ça c'était problématique parce que c'était entre guillemets des concurrents, c'était deux sites, voilà. Il y avait eu cette première problématique, mais la deuxième c'est que voilà, il y a un stagiaire à moi de mon équipe. Il avait vu la news comme quoi l'album de Booba avait leaké et tous les petits sites avaient fait un article, tu vois. Oh, malheureusement, l'album a leaké.
Avec le lien ?
Non, sans lien. Sans lien, c'est-à-dire qu'il a juste mis genre un post avec un emoji. Oh, l'album de Booba a leaké, boum. Et moi, je me lève, tu vois, pour aller au calme un matin, j'arrive. Balou, c'est compliqué là quand même. Je dis, quel boy, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ouais, t'as fait un truc de ouf et tout. Je dis, mais j'ai rien fait. Après, je vois, tu vois, je vois dans les DM, etc. Et de là, l'aventure, elle s'arrête. Tu vois, de
du jour au lendemain.
Ouais, du jour au lendemain. Et là, je me dis, vas-y, en vrai, je peux le faire tout seul, en vrai. Tu vois, j'ai mon bureau, j'ai mon truc. Et de là, je commence ma chaîne YouTube. En fin 2017, début 2018. Où je me dis, en vrai, là, je vais vraiment être moi à 100%. Nique sa mère le format. Je prends une caméra, je me filme et je raconte ce que je kiffe, c'est-à-dire cette nouvelle génération d'artistes, de rappeurs, le rap US. Et je raconte mes anecdotes aux States et j'y vais.
Okay.
Et là, je commence à faire ça et ça prend rapidement.
Là, plus du tout de rap français.
Ouais, là, vas-y, j'en avais marre.
Ça t'a blasé un peu.
Ouais, ça m'avait blasé en fait. Le rap français, je suis un kiffeur de rap français de base, mais on va dire que la période génération, etc., vive dedans, voir aussi les embrouilles qu'il y a dedans. Je voyais même plus les mecs que j'y. Entre guillemets. Parce qu'on idolâtre personne, mais que je voyais en big, je les voyais plus pareil en fait. Je me disais, ah ouais, en vrai, vas-y, ça m'avait saoulé en fait, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, le rap Kenry, j'ai toujours cette petite lueur en moi, je suis à fond dedans, j'écoute toujours. Vas-y, je prends ma caméra et j'en parle à fond. Et c'est comme ça que je me suis lancé, tu vois.
Ok.
Enfin, sur YouTube en tout cas.
Je vais pas faire un gros retour en arrière, mais t'as raccourci les 4 années. T'as resté 4 années.
Ouais, 4 années. Ouais, 4 années.
T'as resté 4 années à génération, on dirait. Genre, ça s'est bien passé les 4 années, t'as évolué, t'as appris, t'as fait plein de trucs.
Grave.
Parce que 4 ans, en vrai, c'est long, surtout quand on est jeune et que tu développes plein de trucs, des projets, tout ça.
Ouais, non, franchement, les 4 années, elles sont grave bien passées. J'ai vu trop de trucs passer. En vrai, de vrai, j'en parle jamais, mais première interview d'MHD, MHD, il était personne, c'est nous qui le faisons. Niska, premier concert de Niska, c'est moi qui l'organise avec Génération Buzz, Nino, je le vois aussi au début.
Les freestyle Nino Génération, c'est...
Ouais, voilà, tu vois, Nino, je le vois à ses débuts. Franchement, il y a trop d'artistes comme ça qu'on fait péter et avec qui j'ai des liens, tu vois. PS Auteuil, XV Barbar à l'époque. En fait, j'ai vu toute cette nouvelle génération et ils passaient derrière le micro et après on devenait comme ça, tu vois. Donc ça m'a vraiment créé un lien fort avec le rap français. C'est-à-dire avec cette génération-là, tu vois, les gradures Kalash, je vais pas dire ses débuts parce que ça fait longtemps qu'il est dans la musique, mais quand il a commencé à péter en métropole, bah, je fais partie un peu du truc, tu vois, on va dire. J'ai apporté, on va dire, une pierre à l'édifice. PNL au début, tu vois, Jaja et Dinaz au début, Jul au début, parce que j'étais le premier à faire les interviews de Jul au tout début.
Ok.
Donc, à une époque d'ailleurs où.
Il en faisait pas. Jul,
c'était, ouais.
Et il était détesté.
Et il était détesté, je sais pas, mais en tout cas, il était pas aimé.
Il était pas aimé, ouais, il était pas aimé, tout le monde le critiquait.
Il faisait un truc qui était différent, les gens, ils voulaient peut-être. Je sais pas si les médias lui donnaient la seule forme.
Non, il lui donnait pas la seule forme, il l'aimait pas. Et moi, on m'appelle, on me dit, tu veux faire une interview de Jul? Je dis, vas-y, let's go. Yeah. Moi, je dis, let's go, on y va. Et de là, on se valide, tu vois. Il m'appelle après, il me ramène dans son clip, wesh, alors.
C'est chaud.
Tu vois, je trouvais ça cool.
C'est grave intéressant ce qu'il dit, chasseur. Comment toi, tu vois les médias à cette époque, les autres médias, tu vois? Du coup, t'as une petite expérience dans Génération,
ouais,
au calme.
Ouais.
T'as ouvert deux médias.
Mm.
Comment tu vois le paysage?
En fait, j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose à cette époque-là. Je regarde et je me dis, tout le monde fait un peu la même chose. Je me dis, ouais, c'est dommage parce qu'en fait que tu regardes un site ou un site, bah c'est la même chose. C'est le nouveau son de Sadek et une interview. Salut, comment ça va? T'as quoi comme actu? Tu vois, j'avais l'impression que on était dans un truc où là aujourd'hui, je kiffe de ouf les médias.
Okay.
Tu vois, aujourd'hui, tu regardes Bouscapé, ils ont des programmes avec des jeunes, Bouscapé colombien, ceci, cela. Vous, c'est incroyable. Tous les jours, ça débite avec c'est l'équipe. Tu vois, c'est là, je kiffe de fou. Mais à l'époque, c'était monotone en fait. C'était, on va dire, il y avait Bouscapé qui se démarquait avec les freestyles. Tu vois. Point. Rapelite qui faisait des interviews quand même qualitatives, etc. Mais c'était il y avait rien, il y avait pas ce truc là, tu vois. Et moi c'était ça que je voulais apporter avec mon côté. Je pense sans prétention que j'ai apporté quand même un peu d'entertainment en France. J'ai un peu ouvert le truc. Il y avait Petit Délire qui était chaud à l'époque, il faisait déjà des interviews. Petit Délire, tu vois, le truc que tout le monde fait un peu. Sandwich, pas sandwich, genre t'as le choix.
Il a mélangé l'émission Comedy, il a dit sandwich, j'avais pas sandwich. Ça, non, j'ai
il,
un
semble,
peu.
Il me semble, ceux qui ont vraiment démocratisé ça et qui ont lancé ça, même, il me semble, c'est Combini.
Bah, c'est vraiment Combini. En France, avant ça, Petit Délire, il le faisait avant.
Ah ouais?
Petit Délire, ils le font depuis 2012.
Ok.
Petit Délire, Mauvais Délire ou Bon Délire, c'était ça leur délire. Okay. Mauvais Délire ou Petit Délire, et c'était ça leur délire. Ils le faisaient avec Nesby, ils l'ont fait avec un 995. C'est eux qui l'ont fait en premier, en vrai de vrai.
Okay.
Ils ont fait Petit Délire, et moi j'étais déjà proche avec eux puisque je kiffais leur manière différente d'amener. Et c'est pour ça que j'ai fait Buy the Sneakers avec eux.
Okay.
C'est que je kiffais leur approche différente d'amener ce délire là en fait. Tu vois, d'amener les interviews, mais pas que de parler, voilà. Parce que dans tous les cas, il y avait un truc aussi quand t'étais dans une journée promo. T'arrives cinquième, c'est mort, l'artiste il est blasé. Parce que tout le monde fait les mêmes interviews. Alors que là, maintenant, il y a plein de concepts différents, etc. Tu vois. Et ça me saoulait un peu ce côté-là.
Ok.
Question aussi par rapport au format que tu proposais déjà. Tout à l'heure, t'as parlé d'interview. Genre, il y avait déjà de la vidéo et t'étais dans les vidéos.
Ouais, j'étais dans les
ça
vidéos.
Ça veut dire que. Parce que moi, j'ai l'impression, comment je vois en tout cas les médias à cette époque-là et même au niveau rap et tout. Moi, j'ai une vision, par exemple, de Rap Elite, où tu sais, ouais. C'est format où on va voir le rappeur,
ouais.
On va pas voir forcément ce qu'il y a derrière.
Ouais, c'est ça.
J'ai l'impression que Bouscapé, si je dis pas de bêtises.
Non, il se montrait pas.
Ouais, c'était calme pas. Et il y avait l'artiste. Bah,
la première fois qu'on voit Fif, c'est dans une interview avec moi.
D'accord.
C'est, ah ouais, 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 de ouf, je m'en souviens, je l'ai saoulé, je lui dis, ah, montre-toi, non. Après, je me souviens, après l'interview, je lui dis, mais gros, faut que tu te montres et tout, t'es trop big, t'as trop fait trop de choses et tout, non.
Ça, je trouve, c'est grave qu'un. Enfin, j'ai l'impression que c'est une approche grave qu'un riz du média. Et c'est un truc. Bah, qu'il y a des médias qui n'ont pas fait. Et justement, tu parles du fait que ce soit potentiellement monotone, les médias.
Ouais, ouais.
Mais parce qu'en vrai, scroller sur un site internet, c'est pas intéressant.
C'est ça.
Toi, t'as capté, je pense, ce qui se passait sur les réseaux, c'était, ouais, rien que déjà, quand tu fais de l'humour et que tu montes ta tête, les gens, ils vont te reconnaître et donc, du coup, ils vont te kiffer. Ou en tout cas, tu vas capitaliser sur toi. Et en vrai, c'est la même chose avec les interviews.
C'est ça, c'est exactement. Là, t'as tout dit, t'as tout résumé, c'est exactement ça. Et c'est ce que je me suis dit, en fait. Plutôt que de faire une interview, voilà, on pose la caméra et on pose des questions aux gars. Bah, je vais me mettre dedans. Moi, j'ai mon côté gaulerie, fou, bon vivant, souriant, etc. Je mets le mec à l'aise et on discute, etc. Et ça crée un espèce de mini talk show, on va dire, tu vois. C'était vraiment ça l'idée. C'était vraiment, vraiment ça l'idée. Et justement, je crois que les interviews. Il y avait quelques interviews filmées à Génération avant moi. Mais on va dire que moi, j'ai vraiment posé le truc, genre interview filmée. Bah, ils ont vraiment. Enfin, ça vient pas de moi, hein, ça vient d'eux. Ils sont vraiment dit, ben là, on va commencer à tout mettre en ligne, etc.
La vérité, c'est qu'en vrai, s'il y a personne pour présenter une émission cool, tu peux pas tourner des émissions cool et les poster.
Ouais,
parce
ouais.
Qu'en vrai, Génération YouTube, il y avait les freestyles en visuel, mais je me rappelle qu'il y avait des interviews qui étaient intéressantes.
Ouais.
Enfin, il y avait tout ce côté contenu
ouais,
là
sûr,
qui devait être bombardé, débité. Si t'as été là-bas pendant 4 ans, ils ont dû y aller, tu vois.
Ouais, ouais, bah,
frère, gagné de ouf.
À des moments, je te dis, à des moments, Génération, c'était incroyable. Moi, je faisais 3 interviews par jour.
Ah, okay.
Franchement, j'ai une anecdote. Je me suis retrouvé un jour, par exemple, Damso, un jour, j'ai fait une interview de lui. J'avais pas écouté son album, rien. J'arrive, il y a Damso fait une interview. Oh, les frères. Et après, bon, tu le ressens dans les commentaires que j'ai pas écouté l'album. Mais un jour, je me suis retrouvé, et ça, c'est une interview. Franchement, je crois que c'est une de mes interviews préférées. Genre, je finis mon émission et tout. Et là, il y a un gars qui arrive, on me dit interview-le. Je dis, mais je sais même pas c'est qui. Et c'était Jordi. Jordi, je sais pas si vous
voulez dire.
Et du coup, je me retrouve face à Jordi, tout ça. Et il était complètement foncé, tu vois. Donc, je lui dis, ah, ça va ou quoi? Il m'a fait, ouais. Je dis, vas-y, présente-toi. Ben, moi, c'est Jordi. Après, je regarde mon gars, Tita, il dit, wesh, quel bail, tu vois, je sais même pas c'est qui, tu vois. Déjà, je sais pas c'est qui, je connais pas sa musique, il me met en galère. Donc, en même temps, je tape sur internet, tu vois, pour voir. Ouais, j'ai vu, t'as sorti un album et tout, nanana. Ouais.
Ah ouais,
c'est. Et du coup, ben, moi, j'ai essayé de, tu vois, et cette interview, on a que fait de m'en
ça,
parler.
C'est en vidéo et c'est diffusé en live.
Ouais,
en même temps
non, c'est en vidéo et après, c'est diffusé après. Non, c'est okay. Tourné, c'est diffusé après.
Okay.
On faisait pas de live à cette époque-là, il y avait pas okay. De live, ouais. pas de live, mais c'était... Non, franchement, Génération, ça m'a beaucoup appris, le métier de host radio, de host tout court en vrai, parce qu'il y a une manière de faire, une manière de débiter, une manière de dire que j'ai appris là-bas. Ça m'a fait avoir beaucoup, beaucoup de connexions, rencontrer beaucoup de beaux mondes, etc. C'était une putain d'expérience.
Ça veut dire que c'était un bête de tremplin pour...
De fou.
Après, bah, au calme, du coup, et ensuite pour monter ce que tu as envie de faire.
Exactement, exactement.
Au niveau des chiffres, du coup, quand tu pars sur French Plug, ça se passe bien?
French Plug, bah, au début, ça s'appelait le Balou Show, toujours.
Okay.
Au tout début, ça s'appelait le Balou Show. Et justement, ça, j'ai voulu changer le nom de le Balou Show quand bah, j'ai eu... la petite embrouille avec au calme, je me suis dit, mais en vrai, tout ce qui va être posté sur le Balou Show, les gens vont croire que c'est moi, parce qu'il y a le nom Balou dessus, et donc je voulais un peu distinguer les trucs, et de là, je rencontre, vous allez dire, je suis fou encore, mais je rencontre l'équipe de Party Next Door, et...
Comment genre, c'est l'artiste préféré de plein de gens ici.
Ah ouais, je rencontre son équipe, etc., après son concert, et de là, je leur dis un peu ce que je fais et tout, et c'est eux qui me disent, ah mais en vrai, t'es le French Plug. Oh, t'es le French Plug. Ils arrêtent pas de me le dire toute la soirée. Et on reste en contact. Et de là, je me suis dit, ah, mais c'est un délire en vrai, French Plug. Puisque c'est ce qu'on fait un peu, tu vois. C'est ce que je commençais à faire sur YouTube. J'avais pas encore le nom. Et je me suis dit, vas-y, on va lancer le truc. Et en septembre 2018, bah, je lance French Plug officiellement, tu vois.
Ok.
French Plug,
ouais. Ah, autour de toi, t'as une équipe du coup?
Ouais, là, j'ai une équipe. Ouais.
Ok.
Ouais, là...
Tu rigoles.
Non.
Il va falloir expliquer pour toi. Désolé, mon ref.
Ouais, à cette époque-là, j'ai une équipe soudée et tout. À l'époque, ouais.
Ok. C'était un truc compliqué à monter, là?
Ben, en vrai, je m'en souviens, j'ai fait un casting à la Nick sa mère. Je me suis dit, ah, vas-y. Franchement, j'étais solo. Tu vois, Balou Show, tout ça, à un moment, j'étais solo.
Ok.
Et j'ai mis un casting un peu en story. Voilà, qui veut faire partie de mon équipe, cherche un caméraman, ça. Et là, il y a des gars qui m'envoyaient des messages et je me suis linké avec des mecs et c'est là, j'ai monté une équipe, tu vois. Okay. J'ai monté le délire. Et en même temps, à côté, bah, j'avais déjà plein de refrains. Genre Faudier, Lamad, etc. Mes petits refs, c'est des mecs que je connais. Faudier, Lamad, etc. Tous les mecs que vous voyez qui sont dans mes vidéos, ouais. Bah, c'est des mecs que je connais depuis le crump.
Ok.
C'est-à-dire Faudier, c'était mon élève dans le crump. Lamad, c'était l'élève de Faudier.
Ok.
Donc on se connaît depuis des années. Et on s'est dit, on a une passion en commun. Vas-y, viens, on essaie de faire un bail, tu vois.
Ok. Comment ça se passe?
Bah non, ça se passe bien en vrai. Ça se passe bien. Faudier, il apprend vite. Commence à maîtriser les réseaux, etc. Logan, mon petit ref, il devient community manager de French Plug, c'est lui qui poste. Louis, les gens ils le savent pas, mais c'est la tête pensante de French Plug, vraiment avec moi, tu vois. C'est vraiment, il a toutes les idées, tous les trucs, tous les délires, les manières de communiquer, les ceci, cela. Donc il devient mon conseiller, mais en même temps, vu qu'il rappe à côté, il veut pas trop dire. C'était à l'époque, maintenant il s'en bat les couilles. Ouais. Mais voilà, il voulait pas trop se montrer et dire qu'il faisait ci, ça. Ce que tu connais dans la rap, les codes, nanana. Maintenant, bon, il y a plus de codes, tu vois. Mais voilà, et du coup, on arrive à créer une petite émission à l'époque, French Plug Show, et on arrive à faire tourner French Plug. Le réseau, on le fait essentiellement sur... Ben on le fait, le site, on fait pas de site, on fait essentiellement sur les réseaux, contrairement au Balou Show. On a aussi dit, vas-y, on fait pas de site. Et puis voilà.
Ok. Là, tu t'es dit que tu vas essayer de monter un truc qui peut aller en face des hauts calmes, des Bouscapés et tout ce genre de site.
En fait, même pas. Hein, je calcule même pas hauts calmes, Bouscapés. Moi, je suis en mode, je fais mon truc et... Tant que ça fait vivre moi et mon équipe, vas-y, c'est bien.
Ok.
Moi, je donne la force à tout le monde. Bouscapé, au calme, j'en ai. Tu vois, je les calcule même pas.
Okay.
Genre, je fais mon truc, je tu vois. Genre, et moi, je kiffe. Je regarde Bouscapé, je regarde tout le monde en fait, moi. Et je suis bien avec tout le monde.
Donc, quand je disais ça, c'était pas en mode.
Non, j'ai capté.
En mode...
Mais non, moi, je suis vraiment. Depuis le début de tout ce que je fais, il n'y a pas de concurrence de trucs dans ma tête. Je veux faire le truc pour moi et pour aller à mes. À mon niveau maximum, on va dire, tu vois.
Ok.
Donc du coup je me focus sur moi et mon équipe et on essaye de créer un truc et de se donner, de trouver des manières, des systèmes économiques pour que tous on puisse manger, etc., tu vois. Et puis c'est ça la manière dont on fonctionne et on combat.
Franchement, depuis qu'on échange là, depuis c'est grave intéressant, il y a eu des rebondissements incroyables dans ton aventure, tu vois. Tu pourrais faire un film toi aussi.
Tu sais qu'elle me le dit tout le temps, Alishada.
C'est 100% vrai, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que c'est la partie où t'es le moins happy, tu vois.
Bah, j'ai été déçu en fait. il s'est passé un truc bresson qui m'a déçu, tu vois, tous les gens qui me suivent, ils savent. En gros, on monte l'équipe, etc. Et franchement, ça se passait bien. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on a un show qui fonctionne bien, le site, il fonctionne bien. On a des partenaires, on a tout en fait, on a tout pour que le truc il fonctionne bien. Et là, je prends un coup de massue, je prends un coup de couteau, okay. Je prends un AK-47 dans le dos. Non, il y a un gars qui me trahit et là ça plombe l'atmosphère de toute l'équipe en fait. Okay. Non, parce que nous, on était vraiment une grosse famille, tu vois, genre vraiment, vraiment. On était tous les jours ensemble. Je connais la daronne de Fodji, je connais ma daronne, il mange chez moi, je connais la daronne de la Mad, il mange chez moi, je mange chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, je connais ses petits refs depuis qu'ils sont nés. On est vraiment soudés, tu vois. Alisha, pareil, je la connais depuis 2012, tu vois. On se connaît tous depuis des années. Et là, on laisse rentrer un mec dans notre équipe et il nous fait un coup bas un peu, tu vois. Et du coup, ça plombe le truc et là. Et là, ça change un peu. Okay. Tu vois, ça change un peu, mais après, on a réussi à reconstruire le truc et tout se passe bien là. Mais c'est en fait pourquoi je suis pas happy d'en parler, parce que on a fait un truc bien qui est le French Flag Show. Moi, je kiffais l'émission, elle fonctionnait bien, franchement.
On a fait la promo du sneaker event là-bas, ouais, c'était grave drôle.
De ouf.
Il y avait des vraies questions dures.
Moi, j'ai pas répondu. Il y a une question, ça parlait d'Ayesha Curie, je crois, à l'époque. Je me rappelle, et ça a posé la question à Chad, il a fait. Ah non, les refs, moi.
Moi, j'ai pas répondu en plus.
Tu vois, il a dit, ah non, les gars, moi non plus, je réponds pas.
Ayesha, en plus, elle a dit, ouais, ça veut dire qu'on peut pas faire ça. C'est mort, je réponds pas.
Elle aime trop mettre dans les cornes, elle. Elle met dans les cornes, après, t'es en galère. Ouais, du coup, moi, je suis un peu déçu. Tu vois, je suis un peu déçu parce que on tenait un truc pour moi, le French Plug Show, et même bon, après c'était juste le French Plug Show en vrai. Il y avait d'autres trucs autour, mais tout ça, je l'ai pu rattraper. Mais le vrai truc où on avait une équipe, où on nous voyait en caméra, c'était le French Plug Show. Et je trouvais qu'on tenait un truc qui était bien, tu vois. On avait fait des tournées ensemble. On avait un comme vous en fait, tu vois. C'était un peu comme vous dans le délire où voilà, on était une grande famille, on se voyait tout le temps ensemble, etc. Et là, ça a mis un coup, tu vois, ça a mis un coup. Et le truc, c'est que même jusqu'à maintenant, des fois, quand j'y réfléchis, je me dis, mais je sais même pas pourquoi il a fait ça. Genre, il est parti, il a pris du matos, il a dit qu'il était malade, et on avait investi des trucs ensemble, il a fait des dingueries, et puis après, il a voulu reconstruire son truc en Guada. Normal. Et puis, moi, tu vois, gentil comme je suis, j'ai même pas vu le truc, hein. J'ai essayé 2, 3, 4 mois. Après, c'est des gars, moi, en Guada, ils m'appellent, ils me disent, mais. Ton gars, t'es sûr, il est malade. Nous, il nous fait nos clips. Hein. Je dis, quel boy. Et moi, tu vois, j'avais même pas contrôlé le matos, etc. Tu vois, vu que là, j'étais dans le. Vas-y, j'étais un peu zaf, tu vois. Et là, je commence à me dire, ah, bizarre. Et là, il y a un gars de mon équipe qui me dit, ah ouais, il m'a pris mon drone. Ah ouais, ça. Et là, je commence à tomber de haut, tu vois. Et là, je commence à tout vérifier. Eh, mais ça, c'est où? 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 Eh, mais non. Et après, je dis, ah ouais, le bâtard.
Là, ça veut dire. Avec tout ce qui s'est passé depuis, genre le pire moment entre guillemets de ta carrière, c'est quand t'as un frère qui te trahit.
Ouais, moi c'est ça qui me touche le plus. Tu vois que je me fasse virer d'Ocal, vas-y. En soi, tu vois, c'est pas la boîte à mon père, tu vois, c'est pas grave. Il y a une embrouille de génération, je m'en fous. Mais là, tu vois que ton gars. Eh, tu connais, c'est comme si là demain lui, il je sais pas, il prend le dingue,
il prend les trois caméras du live là. Caméra bizarre.
Il prend tout, il s'en va, bam. Tu reviens, oh, choqué, plus de nouvelles, mais il dit, ah, je suis malade, frère, et tout, là. Tu dis, ah, oh, vas-y, repose-toi bien, t'inquiète, et après, t'apprends, tu vois, tout ça. Ouais. Moi, ça m'a blessé. En général, je raconte pas, hein, tu vois, quand il y a des trucs qui, tu vois, j'ai eu des embrouilles dans le game, on en a tous, des trucs, des petits dessous, tu vois, on en a tous, je raconte pas. Mais là, c'était tellement chaud, et en plus, moi, je l'avais protégé pendant longtemps, que j'ai craqué sur internet, j'ai dit, vas-y, c'est pas mon style, hein, mais j'ai dit, vas-y, je suis obligé, parce qu'en plus, tous les jours, les gens me disaient, ça va, Emma, il va bien, j'ai dit, vas-y, gros, c'est bon,
arrête. Oh, moi, je t'envoyais des messages.
Ouais, voilà, j'étais là, je disais, ouais, il va bien, t'inquiète, il se repose. À un moment, j'ai craqué, j'ai dit, vas-y, il va se faire enculer, lui, cousin, c'est bon. Après, je dis la vérité. Et voilà.
Comment tu t'es relevé de ça? Genre, il s'est passé quoi après, du coup?
Il s'est passé le confinement. Il s'est passé qu'en vrai, de ce que j'ai appris de ma carrière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc, par exemple, au calme, c'est un négatif quand même que je me fasse virer. Bah, j'ai rebondi avec ma chaîne YouTube et okay. C'était le meilleur truc que j'ai kiffé. Génération, il y a eu ci. À chaque fois qu'il y a eu un truc, le crum, ça s'est arrêté, bah, j'ai fait mon média. Bah, je me suis dit, à chaque fois que j'ai eu un coup négatif, il y a eu du bien qui s'est ouvert. Donc je me suis dit, vas-y, on va rester fort, c'est relou. On va rester fort et on va essayer de reprendre, et on va charbon, quoi, tout simplement.
Moi, à ce moment-là, j'ai vu un espèce de switch sur la chaîne YouTube sur le contenu que tu crées, qui était en mode, je passe de d'un espèce
de plateau,
de média organisé,
ouais,
à un truc type Academics, par exemple, qui je trouve te colle 20 fois mieux, tu vois.
Okay.
Genre, j'ai l'impression que quand tu prends, quand c'est bizarre ce que je veux dire, mais des fois tu
t'allumes 23, le téléphone, à 23h,
il est 23h, t'es dans ton lit, il a pas de t-shirt, il dit hey, les refs, il s'est passé un truc sur internet, il s'est passé ça, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ouais, c'est plus toi que...
Ouais, bah, en fait, j'avais commencé ma chaîne comme ça, un ouais, peu, tu vois. Et ben justement, c'est ça. C'est que quand il y a eu ça, je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais revenir à la source. Et après, je me suis plus pris la tête. Hein. Je me suis dit, vas-y, on va faire ci, ça. Et même le podcast qu'on a lancé, là, avec Louis, c'était, à la base, c'est pas un truc qu'on avait prévu. C'est juste que tous les jours, on fait des débats, en fait, vraiment sur le rap. Après, on s'est dit, mais gros, vas-y, viens, on les fait en vidéo, en vrai, ouais, tu vois. On va pas faire des débats comme ça tous les jours au téléphone pour rien. Viens, on les fait, tu vois. Et après, on s'est dit, vas-y, on va lancer ça.
Et au final, ça fonctionne bien.
Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. On a des bons retours sur les réseaux. On a des bons retours sur Spotify, tout ça. Et voilà. Et Joe Budden aussi, que j'aime bien. Tout à l'heure, tu m'as demandé mes inspirations. Ouais, j'aime bien Joe Budden.
Louis, il doit kiffer aussi.
Ouais, il kiffe de fou, okay. Joe Budden. Il kiffe de fou. Joe Budden, ouais, tout. Ouais, Joe Budden. Academics, j'aime bien. Même s'il y a des trucs que j'aime pas trop chez lui, mais j'aime bien ce qu'il fait.
C'est le côté trash un peu que t'aimes pas.
Ouais, le côté trash.
Il dit des dingueries.
Ouais, il dit des dingueries. Et des fois, limite, il.
Mais en vrai, il boit en live. C'est-à-dire, des fois, il est en live.
Il boit pas qu'en live, frérot. C'est sûr qu'il boit pas qu'en live.
Ouais, il boit. Et des fois, même, il a la source, des fois, de certaines embrouilles, tu vois. Des trucs qui peuvent être évités, il poste. Bon, c'est un peu relou.
Vas-y, je vais réexpliquer. Quand je faisais la comparaison, c'était plus dans la forme que
c'était. Non, je te disais même pas par rapport à ça. Là, je revenais carrément sur les gens qui m'avaient inspiré, mais Academics, tu m'as inspiré fort.
Ok.
Dans la forme, dans certains trucs, etc. En fait, j'ai trouvé cool la manière dont il est arrivé et il communiquait sur les réseaux, s'en bat les couilles, genre un condensé de tout ce qui se passe sur internet, etc. J'ai trouvé qu'il est arrivé au moment où justement il y avait un truc vraiment carré sur les réseaux avec Hypebeast, ceci, complexe. Cela. Ouais, complexe, etc. Lui, il est arrivé, il a tout déstructuré en mode, voilà, et il a fait mal à plein de médias. Genre, à l'époque, avant que lui soit là, bah, c'était, bon, dans le rap pur, c'était, voilà, Hot New Hip Hop, Dat Pif, il y avait qui encore, Warstar, etc. Maintenant, il a pris un peu leur spot, en fait, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en vrai, c'est... En fait, tu scrolles, tu regardes, voilà, et ce qui t'intéresse, ça t'intéresse, tu regardes.
C'est un peu ce qu'on peut retrouver sur l'Insta de French Plug.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ce qu'on peut retrouver sur l'Insta de French Plug. On essaye d'amener justement ce qui se passe aux States, ce qui se passe en France, et on essaie de partager ça au maximum, en fait.
Okay.
Mais sauf qu'on essaie d'éviter tous les clashs quand même. Il y a des trucs Quinry qui nous font rire. En Quinry, on le fait parce que voilà, c'est de l'entertainment, etc. Mais en français, on le fait pas.
Okay.
Rap français, je pense que c'est pas intéressant d'amener les clashs. Parce que c'est pas la même dimension. Genre, au States, ils arrivent à faire la part des choses des fois entre l'entertainment, etc. Et bon, même si des fois ça va super loin.
Pas trop.
Oui, récemment. À part 6ix9ine, les embrouilles avec 6ix9ine, mais sinon, ils y arrivent quand même. C'est dans la culture. Mais en France, c'est pas dans la culture du tout, c'est vraiment c'est compliqué.
Comment tu vis le fait d'être genre maintenant un personnage public, tu vois? Et genre au début, t'avais pas trop envie de te montrer, tu vois, quand on reparle des débuts au niveau des médias, tu vois. Comment genre tu vis ça, tu vois?
Bah au début, je le vivais trop mal, vraiment, parce que je t'ai dit, je sortais d'un truc, j'ai vu T-Pain en dépression. J'ai vu T-Pain en dépression à cause de la popularité, à cause de tout ça. J'ai vu, c'est cool, tu vois, t'as de l'argent, tout le monde t'arrête, etc. Mais t'as plus de vie, t'as si, ça. En tout cas, quand je parle de T-Pain, moi je suis pas à cette échelle-là. Mais ça me plaisait pas trop, en fait, son lifestyle. Je me disais, je vais pas être dans ça. Et après, j'ai dû le faire parce que je voulais avoir une image sur mon truc. Et en fait, au début, bah, je trouvais ça relou parce que j'allais dans mon quartier, par exemple, à Rony, faire des courses et je vois tout le monde qui me regarde, tu vois. Wesh Balou, ouais Balou, ça dit quoi? Ouais, nanana. Wesh, tu roules encore ça, toi? À l'époque.
Les bâtards, bah ouais, moi.
Ça veut dire quoi, ça?
Hein?
Ça veut dire quoi, à l'époque?
Bah là, je suis plus encore ça. Ouais. Non, mais...
Toi, t'es chaud. On va en parler après.
Toi, t'es chaud.
J'ai repéré les sièges bizarres là-dedans.
Non, c'est pas ma voiture. Mais toi, t'es chaud. Mais non, ouais. Genre, à l'époque, en fait, bah quand t'as de l'exposition, on te met dans une case directe. Hein, okay. Ouais, mais toi. Les mecs de ton quartier, ça y est, toi, tu manges bien, ça y est, si, ça, ouais.
Et en vrai?
Alors qu'en vrai...
Je te jure, Balou, moi, quand je regarde le truc de l'extérieur, je me dis, Balou, il t'aura mangé Gucci, frérot. La vérité, frérot, t'as les connexions avec toutes les stars US. En France, les rappeurs, ils t'aiment bien. Je vois pas d'obstacle au fait que genre demain t'es un média qui est super puissant, tout ça. Mm-hmm. J'en vois pas.
Ouais,
les seuls trucs que je vois, c'est peut-être genre ce qui s'est passé dans ton équipe, tout ça. Mais sinon je vois pas d'autres obstacles. Tu regardes Camino, nous on arrive à vivre décemment, à avoir des locaux, ça tourne à peu près. Mais frérot, on a zéro contact nulle part, frérot.
Mais vous êtes trop chaud, vous avez pas besoin de contact.
Non, mais c'est pour dire que quand toi tu fais ça, moi je vois pas ce qui est entre toi. Je dis pas que là t'as pas de succès.
Ouais.
Parce que pour moi t'as un vrai succès, mais je trouve que tu peux tout niquer.
Ouais, j'ai capté. C'est merde déjà.
J'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a entre
après, les deux. Après, je me disais la même chose avant l'interview, mais quand je reviens sur la chronologie. Et que moi je voyais French Plug un peu plus vieux, mais en vrai de vrai, non, c'est super récent French Plug.
Ouais, de fou.
Et l'évolution et cette histoire-là que t'as raconté un peu avec les galères et tout, ça fait que, en vrai, là, je pense que t'es sur une courbe ascendante et je pense que ça avance.
Ouais, ça avance grave, ça avance grave.
Ça veut dire que je pense que t'as encore des steps et t'as encore des
c'est
trucs
ça.
Devant. Vous avez des trucs devant vous, tu vois.
Ouais, c'est
moi,
ça.
Je me suis dit, ah ouais, enfin. Quand je pense à Balou, en vrai, t'as un bête de passif parce que tu racontes depuis tout à l'heure que depuis tes 17 ans,
ouais, c'est ça.
T'es sur le game et tu roules, t'es en roue arrière. Ça veut dire, non mais c'est vrai, ça veut dire que tu fais 4 ans à génération, après tu fais vocal, après tu montes ton média, ça bombarde. En vrai, on peut se dire, ouais, ça fait, ah ouais, Balou, ça fait 20 ans, il est là, mais c'est pas le cas de 1 et de 2. Là, tu commences seulement à, genre, à vraiment avancer un peu plus solo, un peu plus indépendamment.
Ouais, mais c'est carrément ça. On va dire que ouais, j'ai eu plein d'expériences, plein de trucs, etc. Mais en termes de French Plug même, là, c'est là où je suis vraiment satisfait du projet. Quand je dis satisfait, c'est on va faire largement plus. Hein, mais que là, je suis fier du projet que j'ai, etc. On va dire qu'il y a deux choses. Il y a Balou, la marque, le personnage, où... Franchement, je m'en sors super bien depuis longtemps sur Balou. Et mes médias, bon, maintenant c'est French Plug, où justement, là, je suis content de mon média, puisque je distingue les deux, parce que Balou, ça fait bizarre de parler de ça à la 13e personne, mais Balou, le personnage, il a appelé pour, voilà, tu vois, bail de sneakers, BET, BET Award, enfin, plein de trucs, des fois des placements aussi, des films, des séries, des ceci, cela. Et French Plug, là, c'est moi qui travaille dessus avec mon équipe et qui travaillons dessus. Et là, je suis vraiment, je suis content de la direction dans laquelle on va. Je suis content. C'est la première fois que j'ai un média où, en 10 ans, où là, je suis content de la direction.
Lourd.
C'est en ce moment là, c'est 3 derniers mois.
Ah, c'est lourd.
Ouais.
À côté du média, est-ce que genre t'as d'autres projets? Parce que des fois, moi je regarde le truc d'extérieur, vraiment. Des fois, j'ai l'impression tu fais la pub pour des trucs où t'as un peu de part dedans.
Il est
dis-moi,
bon.
Dis-moi si je me trompe.
Comme quoi, par exemple?
Et s'il a pas dit précisément,
s'il a pas dit précisément, c'est que nous l'aurait dit précisément direct.
Vas-y. Bah ouais, je bosse sur Digital Currency, c'est une plateforme de distribution digitale à Los Angeles où j'ai un peu de part dessus avec mon gars Swish, etc.
Ok.
il est fort.
C'est dard. Enfin, je pense que t'as encore des trucs à expliquer sur ça, mais juste je coupe parce que en vrai, quand les gens vont regarder sur Internet, ils vont voir tu fais des blagues, ils vont voir t'allumes des vidéos YouTube, ils vont voir. Ils te connaissent, tout le monde te connaît. Enfin, personne ne peut dire non, comme Balou, non, je connais pas. C'est faux, tu vois. Mais je pense qu'il y a personne qui. Et t'as pas fini, mais qui se doute que, genre, il y a ce côté business-là et que t'as ce côté. T'en parles sur les réseaux. Mais en vrai, si on te connaît pas et que si on te suit pas sur les réseaux, sur Twitter, où t'en parles, et nous on le voit.
Même ça, pour moi, il est discret sur ça.
Mais ça sent un peu quand même. Et même en vrai, pour être dans un média, tu sais que pour avoir un média et pour le développer, il faut de l'argent, il faut que ça tourne, il faut que tu arrives à rentrer des projets.
Bien sûr.
Ce genre de truc, ça veut dire. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui. Alors, je pense pas qu'il y a plein de gens qui se posent la question, mais nous en l'occurrence, on est dedans, ça veut dire on se pose la question de comment t'allais développer ça, tu vois. Au-delà de toi personnellement, même French Plug, tu vois.
Bah ouais, pour répondre, je réponds. Attends, là je suis.
Ah oui, moi c'est pas une question. J'ai parlé pendant 5 minutes pour rien, excuse.
Digital Currency, ouais, il y a Digital Currency. Après, il y a des artistes sur lesquels on bosse, comme RMR, qui est aux États-Unis, c'est le Cagoulé, là, qui avait fait un petit buzz juste avant qu'on se confine, etc. On bosse avec lui sur Swish. Ouais, après, il y a des petits trucs sur lesquels je suis.
Ok. C'est-à-dire que tu ne limites pas à l'entrepreneuriat, à tout ce qui est média, tout ça?
Ouais, non, je ne limite pas. Justement, je me dis, tu vois, j'ai une visibilité, j'ai ceci, cela. Il y a des trucs qui sont un background, il y a des trucs qui sont plus visibles. J'essaie de faire ce que je kiffe au maximum. Mais ouais, je ne me limite pas. S'il y a des trucs qui me parlent, vas-y, let's go.
Est-ce que demain, s'il y a un média ou une. une, comme on voit comment les plateformes de streaming se développent en ce moment, elles font en même temps label, elles font en même temps médias et tout. Mm-hmm. Est-ce que s'il y en a une qui t'appelle pour présenter une émission ou pour gérer un, pour travailler sur un futur label ou un truc comme ça, est-ce que c'est des projets qui toi t'intéressent?
Oh non, c'est bon.
Non,
okay. Non,
ça a
non,
été sec. Ma question elle était bien formulée.
Non, en fait, parce que j'ai eu des expériences comme ça.
Okay.
J'ai déjà eu des expériences comme ça où je travaillais avec des labels, des ceci.
Okay.
Non, moi c'est bon. Là, je vais me focus sur French Bug. Je peux plus perdre de temps à développer les projets des autres. Après, ils font des trucs bizarres. Non, c'est bon. Non, moi je veux être focus sur French Bug vraiment là. Et en tout cas, en termes de médias, je veux me focus et je me focus dessus en ce moment. Okay. Là, je suis dessus.
Tout à l'heure, tu nous as expliqué dans ces interviews qu'on fait, on aime bien avoir genre la pire expérience et la meilleure expérience de la personne.
Ouais.
La pire expérience, est-ce que c'était le truc avec Emma ou tu veux parler d'un autre truc, tu vois?
La pire expérience.
En tout cas, top 3 mauvaises expériences
de l'entrepreneuriat, on parle. Hein. Ou de ma vie.
Comme tu veux.
Non, entrepreneuriat, pire expérience. Ouais, ça, j'ai pas validé. Emma, ouais, c'est sûr que c'était une dinguerie. Attends, je réfléchis. Meilleure expérience, vas-y, on va aller dans la meilleure, c'est plus facile déjà. Je réfléchis à la pire. Si t'as une idée, Lisha, n'hésite pas. Dans la pire, tu peux me dire à l'oreille. Mais dans la meilleure expérience. Le fait d'avoir fait. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une que j'avais vraiment validée. Le fait d'avoir fait une tournée avec l'équipe à l'époque et d'avoir été dans différentes villes et d'avoir rencontré les jeunes qui nous suivent, ça c'était vraiment une expérience de ouf parce que déjà c'était je pense un peu une première pour un média, tu vois, et ce qui était lourd c'était que on pouvait enfin échanger avec les jeunes et il y a beaucoup de jeunes qui nous faisaient comprendre que on les inspirait et qu'ils avaient envie d'entreprendre grâce à ce qu'on faisait, etc. Et on pouvait échanger avec eux, donner des conseils, etc. Et ça c'était ouf parce que l'énergie qu'on recevait et l'énergie qu'on donnait, elle était trop, il y avait une vraie alchimie, c'était fort.
Tu peux expliquer le projet parce que moi en tête j'ai deux tournées, une tournée avec une marque
avec un
joueur de basket.
On n'est pas dit le blaze avec
je me suis dit peut-être c'est sponsor, il a pas le droit de dire. Non ouais, c'était avec Adidas.
En vrai, il y avait une tournée avant.
Ouais.
Il y avait une tournée avant qui était vraiment une tournée French Plug pour.
Ouais, voilà, c'est ça. En gros, on avait fait une tournée à l'époque qui s'appelait Aouda Gang Tour. En fait, franchement, c'est parti comme ça. C'est mon petit ref, il a fait un projet comme ça pour Turn Up, genre il faisait des sons pour Turn Up comme ça, et on s'est dit vas-y viens on fait une tournée autour et on va, au début c'était dans les lycées, après on s'est dit non vas-y on va pas aller dans les lycées, on va aller donner des points dans les villes, et on prend un van, tout à ma charge, vraiment on prend un van ou un hôtel et on y va tous.
Là il y a zéro marque sur ce projet.
Zéro, et que moi, c'est la marque de mon portefeuille. Ah ouais frère, c'était...
Et c'est Prada, Gucci.
et du coup voilà, on se dit on part sur ça et on a fait plein de dates, on a fait Lille, Nantes, Strasbourg, on a été où, Le Mans, enfin on a fait plein de dates comme ça, tu vois. Et à chaque fois c'était simple, on partait avec une enceinte, une grosse enceinte, des micros, et c'était divisé en plusieurs étapes. C'était au début on présente l'équipe, on met des sons, on s'en gère avec eux, il y a un moment où on parle un peu avec eux, Louis qui fait des sons, à la fin on reste avec eux, on fait des photos, on parle, on discute, etc. Et après
il y avait un espèce de spectacle de Faudier aussi dedans.
Ouais, de ouf, il y avait un spectacle de Faudier dedans. En fait c'était chacun montrer un peu ce qu'il savait faire, tu vois, dans l'équipe. Et voilà, c'était super cool franchement. Et ça c'était une putain d'expérience parce que rencontrer des gens et c'est ouf en fait. Et en plus ça s'est toujours bien passé, c'est-à-dire qu'on demandait jamais les autorisations. On allait au centre-ville à chaque fois de cette ville, on demandait pas l'autorisation. Les keufs ils passaient, ça va ou quoi les gars? Genre toujours au bas l'ambiance et tout, on n'a jamais eu de problème. Donc c'était ouf et c'était une des meilleures expériences avec le French Plug Fest qu'on avait fait là.
C'est pour ça que je te dis, moi j'ai l'impression dans les trucs... désorganisé, j'ai l'impression que c'est là où toi tu te sens genre le mieux, tu vois.
Parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie était désorganisé, frère. Ça veut dire, je t'ai dit, quand je suis arrivé à LA, j'arrive chez un gars, on dort par terre, le lendemain il y a T-Pain, lui il est à Paris, moi je suis chez lui avec sa mère, après je m'en trouve, tu vois, ça a toujours été ça en fait ma vie, c'est vas-y, on y va. C'est la passion qui me dit on le fait et je le fais, et vas-y. Hein.
Et la dernière date de ce tour c'était. Au Gibus.
Ouais, c'était au Gibus. Ouais, c'était un peu la concrétisation. C'était le French Plug Fest. Pourquoi j'ai choisi le Gibus? Parce que c'était une boîte que j'allais avant, c'est tout. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit. Un gars, moi, il me dit ouais, putain, j'ai loué le Gibus pourtant. Je lui dis, t'as dit quoi? Après, il me dit ouais, pourtant, je dis vas-y, passe-moi le numéro. J'ai appelé le gars, j'ai dit on peut. Il m'a dit ouais. Bah. Non, mais parce que c'était pas. En fait, je pensais que c'était plus cher.
Okay.
Je pensais que c'était grave plus cher. Et après, il m'a dit ouais, y a, tu peux mettre entre 700 et 1000 personnes, etc. J'ai dit ah ouais. Mais il me montre, il me dit ouais, il y a une scène, il y a si. C'était pas une salle qui était utilisée. Donc je me suis dit, en plus, ça a fait un truc différent. Bon. Les ambiances Zibus, après j'ai été voir, c'est plus que c'est maintenant. Maintenant c'est des ambiances un peu gay, etc. Tu vois, donc ça a aucun rapport avec les ambiances d'avant hip hop, tu vois. Mais je me suis dit, je m'en bats les couilles, on y va. Justement, on kiffe, on va, on fait le truc et on se prend pas la tête. Donc du coup, on a pris le Zibus. Mais ça s'est fait sur un coup de tête, hein, vraiment. C'est le gars, il m'a dit ça. J'ai appelé le gars, il m'a dit on a dans un mois c'est dispo. J'ai dit vas-y dans un mois. Après je suis retourné au bureau le lendemain, j'ai dit les gars on fait un événement. Ils m'ont dit quoi? J'ai dit ouais on remplit une salle et tout, nique sa mère et tout. Ils m'ont dit mais t'es fou. Et après je dis vas-y on le fait, c'est pas grave.
Il y avait ton frère sur scène, il y avait un artiste US.
Ouais, il y avait un artiste. Il vient de Toronto. Il y avait un artiste US, Lil Boy Cantu, que lui on connaît depuis un moment. Et il y avait un artiste de Toronto. Mais encore une fois, c'est là où je te dis que tout est en bordel avec moi. Un artiste de Toronto qui s'appelle, qui est signé chez Lil Durk OTF, qui s'appelle. Je suis un baiser tellement il a fait des dingueries, j'ai oublié son blaze. Je suis en ouf, il s'appelle comment déjà? Le book de Toronto. Je suis en ouf là. Qu'on a booké au French Breakfast. Je suis un fou de fou. Bon, bref, désolé frérot si tu regardes la vidéo, mais tu parles pas anglais, français. Putain, il s'appelle comme. Je suis un fou. Bon bref, ça va me revenir. Et du coup, on le book lui, parce que justement, c'était c'était les gars de Party Next Door qui s'occupaient de lui, etc. Tu vois, un des gars de son équipe. Et au moment où je book la salle et tout, le lendemain, il m'appelle, il me dit ouais, y a mon gars, il est à Paname le tel jour. Je regarde, je dis ah mais c'est le même jour où je fais un événement. Vas-y, venez. Il me dit ok, vas-y, go. Young Tory, putain, okay. Excuse Young Tory. Et putain, maintenant tout, dès qu'il y a Tory, tu vois, je.
C'est pas mes affaires.
Et voilà, tu vois. Et du coup, voilà, ça s'emboîte en fait. Genre, il y a Young Tory qui est bon, il y a un mec de Californie, mon petit ref. Après, mon dernier petit ref, il me dit ouais, je suis pote avec les gars de CG6, des choses, je les ramène. Je lui dis vas-y. Il les ramène et ça se fait naturellement en fait. Genre, le line-up, il change genre, au fur et à mesure, tu vois. Et ça donne un truc qui est cool. Et au final, bon, on n'a pas eu de chance parce que c'était pendant les grèves. C'était l'époque où il y avait les grèves là en décembre. Mais quand même, on a fait. Genre, on a rempli le truc en fait.
Ok.
On a rempli, genre en pré-vente, on n'avait pas rempli du tout, donc on était en panique. Genre, on avait vendu, genre, peut-être 400, 300, tu vois. On faisait genre, il reste plus que 3 places à chaque fois, mais c'était galère. Et puis, le jour J, en fait, tout le monde a pris les places sur place.
Non.
Donc, on était surpris, on s'y attendait pas. Et franchement, il y avait du monde et c'était cool au final, tu vois.
C'est dingue. Comment tu. Là, c'est. On vient de passer la rentrée. Comment, genre, tu places. La suite pour French Plug à partir de là et pour les années à venir, tu vois.
Bah, sur French Plug.
Et oublie pas le pire moment.
Ah si ouais, putain, le pire moment, mais est-ce que j'ai un pire moment? Je crois que ça va être. Pire moment, c'est quoi? Ah, c'était relou, hein, ça. C'était Emma, franchement. C'était... Je crois que c'était lui, hein.
En vrai, ça fait 2 épisodes où on demande les pires moments et à chaque fois, c'est des trucs presque familiaux. Ah, et
ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'était lui. Parce que, gros, c'était trop. Il dormait chez moi. C'était mon refrain, carrément. Carrément, on avait même vu qu'à l'époque, on traînait ensemble, qu'on était petits en Guadeloupe. On a nos familles en commun, des gens. C'était pour ça. J'ai dit, mais ouais, je pourrais faire une dinguerie comme ça. C'était trop. Ouais, je crois que c'était lui. Ouais, c'était lui.
C'est lui.
Ouais, c'était lui. C'était lui. Mais ouais, pour French Plug. L'idée, c'est que ben là, on a développé des émissions. On a peut-être une ou deux encore qui vont arriver. Et on se focus sur ces émissions-là à l'année, niveau émissions. Après, bon, à la base, l'idée, c'était à fond de développer l'événementiel. Quand on avait commencé le French Blockfest, on avait une édition 2 qui devait être là en septembre, au Cabaret Sauvage. On avait booké Young Nudy à la base. Je le dis, bon, voilà, Young Nudy. Et pareil, Young Nudy, histoire de ouf, comment on a rencontré son équipe. C'est à LA. Bref, je raconterai après.
Je vais pisser les refs.
Comme je suis allé la dernière fois, là.
Et dinguerie, en fait. Il y a eu le Covid. Donc, du coup, ça nous a niqué un plan, quand même, qui était intéressant. Parce que l'idée, c'est de faire grossir le truc et que ça devienne un gros festival. C'est ça, vraiment, l'idée du French Plug Fest. Après, comme je t'ai dit, il y a un petit truc. Court-métrage, série que j'ai envie de lancer, mais là c'est personnel.
Okay.
Sur French Plug, ouais, on continue podcast, le shop, qu'on va faire grossir un peu. Et j'ai rien oublié, shop, tout, émission, boum. Puis ouais.
Tu te rappelles à l'époque on avait fait un événement avec Karl Kani là.
Ouais, carrément.
Juste à côté.
Ouais.
Et pendant cet événement-là, il y avait le caméraman, il était grave cool, je sais pas si tu te rappelles.
Ouais, carrément, de fou.
Bah lui, il m'avait parlé de Young Nudy et moi, je connaissais pas du tout.
Ok.
Et il m'avait fait écouter des sons, j'avais kiffé. Et là, quand il y a eu Savage Mode 2 qui est sorti. Ouais,
c'est son cousin en fait.
Le son avec.
Avec 21.
Oh, j'ai trop kiffé.
Ouais, c'est fort.
J'ai trop kiffé.
Bah, Young Nudy, pour la petite anecdote, c'est un truc de fou. On était à LA l'année dernière, là, pendant la période du BET Award. Et on était avec toute l'équipe, et il y a mon gars Swish qui m'appelle, il me dit « Ouais, je fais une petite conférence sur le digital et tout, avec un
OG. » Je crois j'ai vu ça, je crois.
Ouais, de fou, et il m'appelle, il me dit « T'es chaud pour venir ?» Je dis « Ouais. » Et là, pendant la conférence, les mecs, ils disent « Ouais, on a un gros mec du digital. » Il commence à me faire un éloge de ouf et tout. Et moi, je suis choqué, parce que le gars, le mec qui fait ça, je le connais même pas. Donc, je le remercie de fou. Et à la fin, en fait, tous les gens qui étaient là, ils sont venus me parler. Et il y avait des managers de un tel, et dedans il y avait la manageuse de Young Nudy.
Okay.
Donc c'est de là que le link qui s'est fait, mais vraiment cool. Ah, Young Nudy, vas-y, ok. Ah, boum, les caries sont vraiment cool. Il y avait le manager de Lil Boozy aussi.
Okay.
Donc je devais faire un live avec Lil Boozy. Enfin, ça va trop vite en fait là-bas. Quand tu vas là-bas, tu te connectes, ça va super vite, tu vois.
Manager des artistes, c'est un truc qui t'a intéressé ici, toi ?
Ouais, carrément. Après, artiste, rappeur un peu moins. Tu vois, rappeur, je m'occupe de mon petit frère, même s'il s'occupe de lui tout seul en vrai. Mais rappeur un peu moins. Mais genre par exemple Fodjé, ça, je l'ai managé pendant jusqu'à maintenant, tu vois, jusqu'à peu, tu vois. Là il a pris son envol en mode il fait ses trucs solo, etc. C'est toujours la famille, hein, y a rien. Mais genre Fodjé, sa carrière du début à là, c'était vraiment moi qui était derrière, et c'est un truc que j'ai pris plaisir à faire, tu vois. Donc ouais, c'est un truc que je kifferais faire. Après ouais, il y a un petit truc qu'on fait aussi avec French Plug qui va arriver, justement ça concerne le management de jeunes talents et tout. Quoi, on est en train de travailler sur ça.
Ok, lourd. Et c'était un parcours surprenant.
Ouais, c'est... même moi, à chaque fois que je le raconte, je me dis, ah ouais. Des fois, quand je dis des trucs, je me dis, les gens, ils doivent croire que je mens.
Il y a un mec, la tête de homme, t'as dit ça tout à l'heure. Quand t'as commencé à raconter des trucs avec T-Pain et tout ça, il y a des mecs qui disent, wesh, mes frères, c'est possible ça ?
Ouais, c'est.
C'est à vous qu'il y a des mecs.
Ouais, c'est fou. Hein. Et le pire, c'est T-Pain, j'ai même plus de relation vraiment avec. Si on se follow, hein, tu vois, on s'envoie un message comme ça, mais. Plus de relation.
Ouais. Quel lourd. Moi j'ai une question plus j'avoue j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me disais peut-être qu'on on l'avait esquivé un peu tout à l'heure, mais on peut le revenir.
Vas-y.
Quand tu parles d'Adidas tout à l'heure pour la tournée,
ouais.
Est-ce que enfin quelle relation vous avez avec les marques et comment comment en vrai vous faites rentrer de l'argent sur French Plug? Si tu veux pas l'expliquer précisément,
okay.
C'est normal parce que t'es un média et t'as pas forcément
bien sûr, bien
que
sûr.
Tout le monde est ton business model.
Bien sûr.
Mais je pense que ça intéresse les gens de savoir comment vous vivez en vrai.
Bah, sur la tournée Adidas, bah, c'est eux qui nous contactent directement, tu vois, pour faire. Parce que justement, ils avaient vu le Aouda Gang Tour qu'on avait fait, et ils ont kiffé, donc ils passent par une agence, etc. Et ils nous contactent. Et là, c'est avec Adidas et Courir d'ailleurs. Et là, du coup, on s'entend et on leur explique un peu comment nous on fonctionne. Et de là, bah, on parle cachet, on parle de. Comment on va faire le truc et on y va à fond, tu vois, c'est comme ça. Après sur French Plug, comment on fonctionne, il y a plusieurs manières. C'est une économie assez spéciale comment on gère. C'est-à-dire bon, il y a les marques qui y a des marques qui nous financent certaines choses, etc. Forcément. Après moi je fais rentrer de l'argent. c'est bizarre. Non voilà, c'est bizarre. Il y a plein de manières. On parlera en off.
Comme. Okay. C'est juste.
Ouais, parce qu'il y a plein de.
Il y a des gens qui se posent la question parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que il y a énormément de médias aujourd'hui et il y a plein de trucs qui marchent bien et en plus la vidéo fait que les gens se reconnaissent et donc ils se disent ah ouais grave bien. Nous chez Camino tous les jours on fait des stories et on poste sur Twitter et ils se disent mais frérot c'est incroyable comme taf. T'arrives, tu reçois des cartons, tu crois que c'est des slips, tu rigoles avec tes potes, c'est des délires, je fais des vidéos. Les gens ils kiffent, tu vois, ils se disent ah ouais putain, mais ils doivent se demander est-ce que c'est dur de faire un média, comment on fait un média et toutes ces questions là tu vois. Donc il y a zéro galère, c'est normal que t'expliques pas, mais comment
en fait nous on contourne un peu le truc, c'est à dire que French Plug ça a mis du temps à rapporter de l'argent directement, tu vois, genre ça a mis quand même du temps. Et à côté, moi j'avais créé à l'époque, bon je le raconte, hein, j'avais plein de pages Facebook, des grosses pages Facebook de mèmes, de ceci, cela. Et en fait, il y a plein de. Les jeunes, ils se rendent pas compte, mais il y a plein de sources de revenus. C'est-à-dire, Facebook fait de la monétisation, tu vois. À un moment, j'avais l'une des pages Facebook qui avait le plus de reach en France, tu vois. Donc, ça faisait de la monétisation sur ça. On faisait de la monétisation sur ci. Derrière, il y a les entrées de Digital Currency. Derrière, les entrées de ci, ça, ça. Et moi, en fait, c'était mes propres business perso, tu vois, que j'avais un peu à droite, à gauche. J'en ai un peu plein comme ça que je développe dans l'ombre, que je reversais au début à mes équipes pour les payer, tu vois. Non. Avant de justement trouver un modèle économique sur French Plug qui est, voilà, là on a un podcast, il y a telle marque qui est avec nous, il y a ci, il y a ça, tu vois. Non, c'était ça la première étape. C'est pour ça que je t'ai dit, c'était un peu non, chelou. Non,
en vrai, je pense que les gens, ça les intéresse parce que déjà, t'expliques direct que. Un média, c'est pas forcément facile à rentabiliser.
Bien sûr,
et il faut pas mettre tous ces gens dans le même panier.
Bien sûr, et surtout qu'au début, en vrai, un média, bah, tu dois créer une notoriété, tu dois créer une image de marque, tu dois créer tout ça pour pouvoir attirer justement, que ça soit des marques, des affiliations publicitaires, tout ce que tu veux. Tu dois créer quand même un engouement, une image de marque, et c'est ce qui était dur à faire. Et moi, je me voyais pas créer cette image de marque en ne payant pas les gens qui sont avec moi. Donc, j'utilisais mes revenus que j'avais à côté, tu vois. Et puis je payais au début comme ça, et après on a réussi à créer un truc, et derrière on avait créé un moment, on avait créé une capsule Rapfire avec Warner, après on créait des choses, BET c'est French Plug, mon émission BET c'était French Plug qui produisait, à un moment j'étais retourné à Génération pendant 6 mois, c'était French Plug qui produisait, etc., etc. Après on s'est mis à produire des émissions pour d'autres médias, où on prenait de l'argent, et après... qu'est-ce qu'on a fait? On a un studio vidéo photo qui tourne chez nous tout le temps. On a un studio de musique qui tourne, qui s'appelle Dans le Labo, qui est géré par Louis Aouda et Sibioni, mais qui fait partie de French Plug, donc qui tourne tous les jours comme un studio de musique. Et on a un studio photo vidéo qui tourne, donc ça fait rentrer de l'argent aussi, tu vois. Donc voilà, c'est plein de. En fait, on a plein de sources de revenus, etc. Mais là, ce qui est bien, c'est comme je t'ai dit depuis, voilà, French Plug, vraiment deux French Plug même. Il y a vraiment l'argent qui rentre vraiment bien et qui est cool, tu vois. Donc c'est un peu ça, ouais, le schéma. C'est pour ça qu'au début, je disais, ouais, c'est un peu particulier. Bon, en vrai, autant le dire, comme t'as dit, c'est intéressant pour les...
Il se retient de dire des insultes.
T'as quand même dit, en vrai, dis sa merde.
C'est clean, il y a zéro galère.
Ouais, de ouf.
Moi, j'aime bien le côté, genre, savoir que tu lances un truc, c'est pas forcément rentable, mais tu le fais parce que tu kiffes le faire, tu vois, et tu trouves des
stratagèmes manières.
pour que ça fonctionne jusqu'au jour où c'est rentable, tu
c'est
vois.
Ça, c'était ça le délire.
Et un autre truc, c'est que tu hack aussi, genre, tout le knowledge que t'as récupéré, même en faisant des conneries, en faisant des blagues sur un CBO à 2h du matin sur Facebook, en gros, toute cette énergie-là et toute cette connaissance-là des réseaux sociaux, tu l'utilises à ton avantage en vérité, parce que déjà tu l'utilises sur comment mettre en avant mieux French Plug. Mm-hmm. Tu l'utilises aussi avec la monétisation de page. J'avoue que j'aurais été le dernier à penser que t'aies fait ça, et en vrai c'est stylé de fou.
Ouais.
Genre que t'arrives à récupérer de l'argent en faisant d'autres trucs, en créant du contenu qui n'a rien à voir avec toi, en marque blanche, tout ça. Je trouve ça chaud, tu vois.
Mais je l'ai fait à partir de 2014, j'ai commencé.
Okay.
J'ai commencé à faire ça en 2014 et je m'en souviens en 2016, 17. Bah, c'était Willem qui avait le plus de reach, c'était au monde carrément sur Facebook, et moi ma page Facebook elle avait le plus de reach en France, et c'est comme ça que j'ai fait péter Faudier, etc., parce que ma page à l'époque 600 000, je faisais des millions de vues tous les jours et je monétisais, donc tu vois, il y avait de l'argent qui rentrait, des trucs, ceci cela, et je dès que je voyais un truc que je kiffais, je partageais. Oh mon Dieu, Salva, je l'ai vu, je partage. Walid Sax, etc. J'ai donné même en fait, dès que je voyais un truc que je kiffais, je donnais de la support, tu vois. Et en même temps, tu vois, je gérais tout ça. Donc
c'est ça que je trouve intéressant. Là, tu vois, tu dis je gérais tout ça, mais ce que je trouve marrant, c'est qu'on se rend peut-être pas compte, mais en vrai, tu fais toujours 24 heures en même temps, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire
à l'époque où t'arrives chez une génération où tu sais pas faire de la radio, au lieu juste de faire de la radio et tranquillement te poser, présenter ton émission. Ouais. Tu essaies de faire quand même 24 trucs en même temps pour, en vrai, assurer tes arrières et faire plein de trucs.
Ouais, c'est ça. Au début, c'était dur, au tout début, parce que je me perdais. J'arrivais pas à me trouver, à m'organiser. Mais dès que j'ai commencé à mettre en place mon espèce de planning de titan qui commence à 8h, qui s'arrête à minuit, tu vois. Les premières années, c'était ça. C'était 8h, minuit, tous les jours, boum. Et en fait, j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir me retrouver dans tout ce que je fais, etc., tu vois. Mais comme je dis, en vrai, j'ai vraiment deux carrières. C'est-à-dire, il y a la carrière de... French Plug ou même business, on va dire, où je suis derrière, où là je suis pas Balou, je suis Lénaïque, c'est mon prénom, et là il y a la carrière Balou où vraiment là je suis devant la caméra, je parle, j'anime des émissions, j'ai cette casquette, j'aime pas ce mot influenceur, talent, je sais pas comment tu peux appeler ça, où il y a des marques qui m'appellent pour leur faire la promo, j'ai ce truc là, tu vois, de face caméra, et j'ai le truc derrière, tu vois. Donc ouais, c'est une double carrière qui est dure à gérer, parce que tu peux te perdre ou tu peux être débordé, tu vois, mais ça va, j'arrive à m'organiser pour développer ça, quoi.
T'as l'impression que t'as beaucoup changé par rapport à la personne que t'étais avant tout ça, tu vois. Genre avant avant le voyage aux States?
Non. Enfin, j'ai changé en termes. Je pense que j'ai pris de la maturité. Il y a des choses que. À ce niveau-là, ouais, j'ai évolué businessment parlant, dans ma manière de penser, etc. Mais je pense qu'en termes de personne même, je suis pareil en vrai. Genre, je pense que tu prends des vidéos de moi de 2012, j'ai la même manière de penser, la même philosophie, tu vois, qui a pas bougé. C'est juste que, au fur et à mesure d'avoir des ratés, des ceci, des réussis, des succès, ben j'apprends et je pense que j'emmagasine et que je deviens une personne qui évolue et qui devient meilleure. Mais je pense que je suis toujours le même. Je pense que je suis toujours le même en vrai depuis le début.
Ok. Je pense que c'était grave cool. Hein. J'ai grave.
Ah, c'est dingue.
J'avoue que il y avait plein de trucs auxquels je m'attendais pas du tout.
Sérieux? Genre quoi? Genre le crème, la partie crème?
Non, parce que ça j'avais vu dans les vidéos, ouais. Tu vois. Mais genre la rapidité qu'il y a entre toutes les étapes un peu de ta carrière, je trouve que ça va hyper vite. Et moi j'avoue, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise avec le fait d'aller aussi vite.
Ouais.
Parce que des fois quand les choses elles vont vite, t'as l'impression que tu les mérites pas entre guillemets. Ouais. Et je sais que moi je gère pas bien ces situations là.
Ouais, j'ai capté.
C'est-à-dire j'ai besoin que les choses elles aillent doucement et que j'ai vraiment le temps genre d'intégrer chaque étape et pour construire la suite, tu vois. Et toi t'as pas peur d'aller hyper vite et ça marche pour toi? Et
bah en fait le truc c'est que des fois c'est même pas moi qui choisis que ça aille vite en fait. C'est-à-dire genre quand je suis allé à LA, moi je suis allé pour faire du crump. J'ai pas choisi de voir T-Pain, tout ça, ça arrive. En fait des fois ça arrive sur moi. Bon c'est pas de la chance, je pense que quand même j'ai poussé, j'ai fait le truc, je m'entraînais tous les jours, etc. Mais il y a un truc qui fait que boum, il y a ça qui arrive, et, tu vois. Genre quand je commence mon média, il y a ça qui arrive, tu vois, genre. Et ouais, c'est ouf. Mais par exemple, une petite anecdote qui est marrante, genre, il y a eu cette vie là un peu, voilà, c'est dans les strip clubs à Atlanta, nanana, et après, j'avais une vie un peu de ouf, tu vois, j'arrivais, ah, oh, boum, ah, oh, tiens, je donne mon humeur qu'il veut, ah, oh, si, ça, à l'époque, tu vois, c'était vraiment la folie, parce que c'était vraiment, les mecs, ils lâchaient des 1 million en billets, des dingueries, et j'étais là, j'étais au milieu, je faisais rentrer un peu d'argent avec
tu
la
ramasses,
danse.
Tu ramassais,
non, t'as pas. Un jour, un gars, moi, il a essayé de faire ça, on l'a regardé mal hein, là-bas, il rigole pas avec ça, hein, tu peux pas ramasser. C'est les mecs du strip club, même, ils te frappent si tu ramasses. Mais il y avait cette vie-là, tu vois, que je voyais, etc. Et après, je rentrais à Montfermeil, frère. Et là, j'avais la vie du quartier, tu vois. Donc, c'était spécial, en fait. C'était. Un jour, j'ai eu un dilemme. Un dilemme, mais trop marrant. Genre, j'avais un rendez-vous à Pôle emploi. C'était 2010-11, tu vois. 2010. J'avais un rendez-vous à Pôle emploi. Et à côté, le jour du rendez-vous, si j'y allais pas, je me faisais radier et tout. Et j'avais plus mes aides de l'époque, tu vois. Et soit j'allais au rendez-vous et je me faisais radier, soit j'allais au retour de Lil Wayne à Miami dans le club et j'étais invité. Bon, j'ai réfléchi. Ma daronne, elle m'a mis une sauce, elle m'a dit c'était radié de Pôle emploi, tu te dégages. J'ai dit, gros, j'ai pas été, frère. J'ai pas été au truc de Lil Wayne et j'ai été à Pôle emploi, je suis arrivé. Ils m'ont dit, ouais, mais non, ta concert, elle est pas là, elle est malade, reviens une prochaine fois.
Wow.
Et c'est là, je me suis dit, vas-y, maintenant, nique sa mère, je fais tout ce que je dis. Allez, nique sa mère, c'est beau.
Pire expérience, j'étais à Pôle emploi pour rien.
Ça, c'était une histoire de ouf, hein. C'était une histoire de fou. Ah, je t'ai dit avant, ouais. Et en vrai, les gens, ils me prenaient pour un fou de ouf.
Tout à l'heure, il a pas raconté la partie. Ça veut dire, il y a une partie où tu bossais sur tes projets et ton revenu, c'était Pôle emploi. Ça veut dire, t'étais.
En fait, ouais, cette partie-là, quand je dansais, ouais, clairement, il y a eu deux parties quand je dansais. Il y a une partie où je faisais de l'argent, où vraiment j'étais dans le crew, une squad, où je dansais, je faisais des tournées, je donnais des cours, je faisais ci, ça. J'étais avec l'équipe, Payne, quand ils avaient des shows, j'allais, boum, boum, je faisais de l'argent. Et il y a une partie où je faisais pas d'argent avec la danse, où c'était la débrouillardise, mes petits événements à droite à gauche. Et c'était la fin quand Payne l'a arrêté. Quand il a arrêté et que nous on a arrêté tout ça, j'ai mis quand même 6-7 mois hein, avant de me retrouver, de réfléchir, de ci, de ça, tu vois. Donc il y a eu une petite partie bresson quand même.
Ah, ça veut dire que c'est pas forcément du jour au lendemain à chaque fois.
Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que
je dis. Il raconte l'histoire comme un américain.
Bah, c'est ça, mais c'est, mais il a tout,
Non, mais moi, je te raconte. En gros, il y a toujours. Ouais, il y a eu 6-7 mois quand même de. Tu vois, de un an peut-être, allez, de compliqué. Tu réfléchis, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Mais c'est pour ça que je te disais, ouais, après, pour la mise en place, fallait trouver les fonds. Où est-ce que t'achètes à l'époque, c'était les Canon 5D. Où est-ce que tu. Tu vois. Et il y a toujours eu ce truc de débrouillardise.
Il y a aucun de ces moments-là où tu t'es dit, ouais, je vais reprendre une vie normale, genre une vie sans
crump déjà,
sans crump, sans médias, sans, tu vois.
Bah en fait j'avais vu tellement,
tu vas à un travail, tu vois.
Non, en fait j'avais vu trop de trucs de baiser, genre j'avais vu trop de trucs de baiser, c'était mort en fait. Genre déjà, même à chaque fois que je revenais des voyages que je faisais aux States et je racontais à mes gars, et je te promets, des gars avec qui j'étais tous les jours, à des moments ça siège, genre ouais j'étais typé, vas-y ce mytho là. Et les mecs ils me croyaient pas, tu vois. Alors, j'étais pas un mec qui prenait des photos, en plus c'était BlackBerry bizarre, tu vois, je prenais pas de photos, non. Donc mes gars, déjà il y avait une partie de mes gars qui me prenaient pour un mytho. Déjà
franchement ça, je le mytho, j'avoue, moi c'est.
Eh, il me prenait pour un mytho,
non ? En vrai frérot, un gars il vient, il s'assoit
à côté de mon quartier, il au Greg à côté de Wade là.
La vie de ma mère, c'était
Greg, t'as envie de lui dire ben retourne là-bas.
Bah retourne, mais c'était ça, c'était carrément ça.
Qu'est-ce que tu fous là si tu.
Mais c'était carrément ça. Et en fait, j'avais une double vie bizarre en fait. C'est-à-dire que je voyais des trucs de ouf quand j'allais à LA. Et quand je revenais ici, j'ai les vidéos, j'ai tout. Un jour, je pense qu'un jour, je vais mettre plein de vidéos de ouf comme ça, tu vois, sur Internet. Et je revenais ici et j'avais ma vie de mec normal, en fait. Et en fait, ce qui me faisait me dire que je vais jamais me lancer dans un taf normal, c'est parce que c'était pas ma passion déjà. Et j'avais déjà fait plein de petits tafs plus jeunes, etc., qui me plaisaient pas. Et surtout parce que j'avais vu tellement de mecs avec qui j'étais partir de rien et réussir là-bas, je me suis dit non, faut que je le fasse à fond. Ah, faut que je le fasse à fond, de ouf. Je te dis, j'ai vu des. Eh putain, c'était ouf. J'ai vu des mecs, genre j'étais avec des mecs, c'était personne. Le lendemain, il a un single avec 2 Chainz.
Qui
Bah à l'époque, c'était en 2014, ça s'appelait T-Fly. Tu vois pas, il avait un son 24 Hours. Bah lui, je dansais avec lui, tu vois. Le lendemain, il a un single avec 2 Chainz ou des mecs. Par exemple, là, j'ai un gars avec qui je faisais tout au début qui s'appelle AD. Bah c'est devenu. Il a pété, il a un single avec. Il a des singles avec Coty Genesis, avec YG, il est sur les albums de YG. Et là hier j'ai vu une annonce où c'est lui qui fait les podcasts sur le média No Jumper. Et lui c'est mon gars, on est comme ça. Tu vois, et genre à chaque fois je vois mes gars ils pètent là-bas, tu vois. Donc vas-y, je peux pas.
C'est intéressant de fou. T'as l'impression que genre tout va plus vite là-bas et toutes les opportunités vont plus vite et que tout le business va plus vite.
Ah ouais, ça a aucun rapport. Ouais, ça a aucun rapport. Okay. Non, ça a vraiment aucun rapport. Genre, je te dis, j'ai vu des mecs passer de rien à multimillionnaire. Vraiment, genre par exemple, j'ai un gars, moi, c'était un SDF, je suis parti, 6 mois, je suis revenu 6 mois après, il était signé chez Icon, il avait une Maserati. Il s'appelle Mickey Monday, il était dans le dernier Love and Hip Hop. Je dis mais wesh les gars, mais tu vois ce que je veux dire, genre ça me mettait des tartes en fait à chaque fois, tu vois. Et j'ai vu ça trop de fois.
Et à aucun moment tu t'es dit je vais à l'hostel, ça y est, nique Sarah, ça c'est bon, ça y est.
En fait,
pour l'emploi, ça y est. Nique, en fait, Montfermeil, nique.
Mais en vrai, sa plus-value, elle est trop en France.
Ouais, c'est ça, c'est que je suis français et que j'apporte ce truc-là. Parce que quand j'arrive là-bas, je vais ramener quoi de plus ?
Ouais, ça.
En vrai, genre quand j'arrive là-bas, vas-y, je fais des interviews. Bah, il y a Adam 22, il est mieux que moi. Ils parlent tous mieux que moi anglais. Donc, je vais être. Vas-y, tu bats, tu vois. Genre, à moins que je fasse de la sap et que je l'amène là-bas, mais moi, je suis pas un mec de la sap. Tu vois, je m'habille, mais je suis pas un designer, je sais pas quoi, tu vois, genre, rien à foutre. Donc, tu vois, genre, il y a pas. Ma plus-value, c'est de ramener là-bas, ici, en fait. Okay. Tu vois, après là j'ai des idées peut-être d'aller faire des trucs là-bas plus prochainement, tu vois, mais c'est exactement ça, c'était ça ma plus-value en fait. Je me suis dit, bah non, mais en fait moi je vais ramener là-bas ici. Et c'est pour ce French plug. Voilà.
Mais y a aucun label français qui t'a proposé des trucs ?
Bah y'a que des labels Kenry qui m'ont proposé des trucs. Pour te dire, genre y'a que des labels Kenry, mais des labels de ouf, hein, genre des Trian Entertainment, des trucs comme ça, tu vois, qui gèrent Young Tech, tout ça, qui me disent, ouais, on va faire une filiale en France, t'es chaud, prêt avec moi et tout. Non. Mais sinon, non, les Français, bah non.
Non, pourquoi bah non.
Non, mais c'est pas dans les mœurs. Genre, vas-y.
C'est l'industrie musicale de manière générale qui est comme ça. C'est-à-dire, le rap, tu le sens, c'est comme ça. Genre, c'est plus frêle. Enfin, c'est,
on va dire,
c'est
là, plus... ça change un peu dans les maisons de disques. Il y a de plus en plus de DA issus de la street, on va dire, tu vois.
Ouais.
On va dire ça comme ça.
C'est-à-dire qu'ils sont pas blancs. Moi, j'ai le passe, je vais le dire. Ils
non,
sont pas
non, mais même qui ne passent pas par le chemin traditionnel. C'est-à-dire, voilà. Peut-être les études, le master, le ceci, cela, c'est des mecs qui ont charbonné d'eux-mêmes, c'est plus dans ce sens-là que je voulais le dire. Ça s'ouvre de plus en plus, mais de base, non. On va dire qu'il y a beaucoup de codes. On va dire qu'il y a beaucoup de codes et que quand tu rentres pas dedans. Bon, ça évolue, hein, vraiment, mais quand tu rentres pas dedans, tu vois, genre, ils comprennent pas certaines choses.
Et ça veut dire quand t'as ces opportunités-là, tu te dis pas, ouais, vas-y, je vais essayer de bouger. Après, c'est peut-être pas dans ton kiff non plus, tu vois, t'es dans des nerfs médias et dans ce que tu fais, tu te dis pas, ouais, vas-y, je vais essayer de bousculer ce qui se passe en France, parce que c'est ce que t'as fait avec le média.
Ouais, c'est ça en fait, c'est ça.
Donc, tu te dis pas, ouais, je vais essayer de faire ça avec la maison de disques, avec le projet des Carins qui viennent en France.
Bah, en fait, avec la musique même, je sais pas si, avec la musique même, j'ai le côté producteur qui peut permettre de faire ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai été beaucoup dans les studios, dans les trucs. Y a quand même, c'est quand même un vrai taf, DA, un taf que peut-être que moi je pense, en tout cas DA musical, ceci, cela, que je me vois. J'ai pas les cordes en fait, je pense. C'est pas que j'ai. Je sais reconnaître de la bonne musique, de la bonne... mais la créer, c'est un autre taf, tu vois. Et je pense pas avoir les. Tu vois ce que je veux dire, genre je pense pas que ça colle avec moi en fait ce taf là. Okay. À la limite, tu vois, dans le côté cinématographique, non, que j'ai pas encore commencé, je me sens déjà, alors que je l'ai même pas fait, plus legit dans ça, capable, tu vois. Okay. Je me sens plus capable, ouais, carrément. Mmh. Tu vois. Donc ouais. Mais c'est un délire, hein, c'est un délire. La différence entre la France et les États-Unis, elle est big. On s'en rend pas, enfin elle est big de ouf, elle est big, c'est en fait t'arrives là-bas, s'ils savent que t'as une valeur ajoutée, ils te prennent. Ah ouais, vas-y, let's go, let's work. Genre, oh, je l'ai refait.
Ok, c'est le jeu.
Oh, je l'ai refait.
Et je vais faire un demi-tour complet. Est-ce que le fait... Est-ce que tout ce que t'as fait comme création de contenu sur le web et comment, genre, parfois, tu t'essaies de créer du contenu vraiment pour que ça fasse de la performance sur les réseaux, tu vois, pour que ça marche bien, ouais. Même jusqu'à des fois être un peu plus éloigné de ce que t'es vraiment. Mm-hmm. Est-ce que genre ça te permet de mieux comprendre le phénomène 6ix9ine ou est-ce que c'est un...
Mais de fou. Attends, et passe-moi un mouchoir vite fait. Et je réponds à ta question, mais ouais, de fou, parce que on va dire que comme je te disais, j'ai cette vision de 360 en fait, c'est-à-dire j'ai la vision de du mec qui va créer un peu le projet et qui va le mettre sur pied. J'ai la vision du mec qui va écrire les paroles pour l'acteur ou comme tu veux, et j'ai la vision du mec qui est derrière la caméra et qui doit créer le buzz, on va dire, entre guillemets. Donc du coup, quand moi je vois un phénomène comme 6ix9ine et que moi, on va dire, sur Facebook à l'époque, c'était un peu ça mon truc, créer le buzz, ah bon là il y a Amber Rose, vas-y on va en parler, on va faire une vidéo, c'est lui ton tueuse, boum boum boum, je sais que quand je vais dire ça, les gens ils vont kiffer à ce moment là, ils vont dire ça, ils vont repartager ce truc, ça va être un mème, ça, ben je capte en fait comment lui fait son truc, et je l'ai trouvé super smart au début. Là je... Bon, en vrai, je le trouve toujours smart dans sa connerie, tu vois, dans sa connerie, il est smart, mais je trouve que justement, le buzz, ça peut t'amener dans le négatif aussi, trop loin. Genre, c'est pour ça, même moi, que je me suis stoppé, à un moment, je me suis dit, oh, là, je me perds dans un truc qui est pas bon, tu vois, trop chercher le buzz, ça peut te tuer vraiment, au sens propre de ta carrière, etc., tu vois.
T'avais l'impression que ça a été efficace jusqu'à qu'il arrive pas avant de décéder? Ou...
Non, je... en fait...
avant ça, tu t'es dit, ouais...
En fait, non. Non, en fait, moi, j'ai même à l'époque où je l'ai croisé, etc. Ben un jour, quand je l'ai croisé, je lui ai parlé, je lui ai dit, ouais, je pense que t'as pas besoin de te clasher avec. C'est la chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, je pense que t'as pas besoin de te clasher avec les gens, etc. Parce qu'en vrai, lui, c'était ça, le truc qui faisait qu'on parlait de lui, c'était que c'était un jeune Mexicain tatoué 6ix9ine partout avec des cheveux arc-en-ciel qui traîne avec Darren White du ghetto, Blood. Donc du coup, ça crée un shock value. C'était big. Tout le monde regarde. Ah, oh mais. Genre, je pense que déjà ça suffisait. Genre, le truc, le délire, il suffisait. Il allait chercher les gens, provoquer. Et là, quand je voyais le truc, au début, ça faisait du buzz. Et à un moment, genre, quand il y a eu trop d'embrouilles, à partir de l'embrouille de Shift Kiff, tout ça, je me suis dit, en fait, là, le mec, il cherche tellement de buzz qu'il s'attire des problèmes qu'il va même pas assumer, en fait. Et moi, ça va, quand je cherchais du buzz, c'est lui onctueux, c'était gentil, tu vois. On parlait des femmes, tu connais, c'était mignon. Mais lui, il allait vraiment dans le truc dangereux. Et puis il y en a plein de cette nouvelle génération, en tout cas plus aux States, qui vont dans ce truc là un peu dangereux, tu vois. À l'époque il y avait un mec qui s'appelle Kid Boo, pour buzzer il a fait quoi, il a mis un cochon pendu sur un truc et il l'a brûlé avec un lance-flamme. Je dis, mais frérot, fais de la musique, c'est un rappeur, hein. Mais pour faire du buzz et pour avoir... Et je me suis dit qu'à un moment, 2017-2018, les jeunes ils sont dupés dans ce truc là et que ça leur a posé, en tout cas dans le rap aux États-Unis, et ça leur a posé certains soucis, on va dire.
Ok. Quand les mecs en France ils t'associent un peu à lui, genre, en gros, sur les réseaux, il y a grave des gens qui disent, ouais, qu'en gros, dès qu'il y a un truc de 6ix9ine, c'est toi qui vas en parler, tout ça. Toi, quand tu le fais, tu penses à l'aspect éditorial. Je pense que tu penses aussi à l'aspect peut-être un peu financier, genre en mode...
Même pas. En vrai, de vrai, genre, quand je fais une vidéo sur 6ix9ine, c'est parce que, c'est comme je t'ai dit, genre, étant donné que moi, j'ai été dans cette position de buzz, je vois les petits comment ils pensent sur les réseaux, etc. Je vois comment ils sont, etc. Non, il a eu raison, Snitch. Non, il a. Non, 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 non. Et quand je fais une vidéo sur 6ix9ine, à chaque fois, en tout cas, que je l'ai fait, et tu regardes depuis le début, c'était à chaque fois de la prévention. Genre, on l'a dit depuis le début. Lui, il va béton. Lui, c'est compliqué. Sachant que c'était le mec le plus suivi. L'idée, c'était à chaque fois de faire une vidéo pour pouvoir expliquer aux plus jeunes qui nous suivent. Parce que je te dis, quand on faisait les tournées, les ceci, cela, on les rencontrait, les plus jeunes. Et je te dis, je parlais à des mecs. Il me disait limite, lui c'est mon idole, je vais être comme lui, XXX, je vais être comme lui, ceci, cela. Et on voit que les petits prennent ces rappeurs-là comme une vraie référence. Donc dès qu'il y avait un truc, je me voyais, je me sentais dans l'obligeance de décoder le bail pour les types captent que. Et à chaque fois, je faisais exprès de prendre un parti pris pour leur dire, vous voyez, je vous avais dit que ça, ça va arriver. Ça, je valide pas. Ça, je valide pas. Vous voyez, ça, ça donne ça. Ça, ça donne ça. Génération Buzz, faites attention. Regardez, Lil Pump, il est plus là. Vous avez vu, c'était bien de faire ci, ça, ça, mais à l'époque, non, tu vois, et c'était un peu. Je prenais, on va dire que j'utilisais. Parce que j'ai ce côté-là où j'aime bien aussi parler on va dire, des choses, de la vie, de ceci, cela. J'utilisais 6ix9ine pour passer des messages, on va dire. Okay. C'était vraiment ça le but premier. Tu vois, après j'ai vu que tout le monde s'est dit, ah, il le fait pour le clout, pour le buzz. Pour le... Moi, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, vas-y, c'est marrant, tu vois. Genre, c'est marrant que les gens aient pensé ça, etc. Mais on l'a toujours fait en fait. Depuis 2017, tous les trucs que 6ix9ine y fait depuis 2017, on fait une vidéo. On faisait une vidéo, on a toujours fait ça. Et on a toujours dit, le mec, il va trop loin. Ça, ça c'est pas validé. Ça, ça va trop loin. Et depuis le début, même avant qu'il aille en prison, on l'a toujours fait ça. Et du coup, j'ai juste continué mon truc. Tu vois, c'est juste, j'ai continué. Mais comme là, il a eu le clout maximum. Bah les gens ils se sont dit, ah j'en parle tout le temps, mais si tu regardes, tu tapes Balou 2017, j'ai toujours fait. Donc c'était vraiment ça l'objectif principal. Okay.
Moi je me suis dit, genre c'est ton domaine, ça veut dire t'es obligé d'en parler, tu vois. Et y a, pour moi, il y avait l'aspect, bah si t'en parles pas, il y a personne qui va en parler.
Ouais.
Et il y a aussi l'aspect performance, tu vois. Tu sais que si tu fais une vidéo sur ça, ça va fonctionner, ça va te permettre de passer tes messages, mais ça va aussi te permettre de... d'avoir une entre guillemets une bonne rémunération et
parce que
l'équation elle est bonne, tu vois.
C'est ça qui est ouf, c'est que tout le monde me dit ça, mais à chaque fois je disais aux gens, mais les gars,
c'est pas négatif.
Non, c'est pas négatif.
C'est pas du tout
négatif, mais en fait, c'est que c'était même pas le but en fait, parce que c'est le but de la chaîne, c'était ma chaîne quand je l'ai créée, YouTube, c'était forcément bon parler de ce qui se passe, mais aussi parce que quand j'ai créé la chaîne, il y avait une nouvelle génération qui commençait à s'installer aux States, tu vois, les Lil Pump, les XXXTentacion, Kodak Black, etc. Et cette nouvelle génération, moi je voyais plein de petits jeunes ici qui reproduisaient ce qui se passait là-bas, la Lean, tu vois, Lil Peep qui est mort de ci, de ça, Mac Miller qui est mort de ci, de ça, et je voyais des jeunes reproduire ce truc-là, oh, la Lean, la Lean, la Lean, la Lean. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, et toutes mes vidéos, ça a toujours été ça, c'est, ok, lui sa musique elle est bien, elle est ci, ça, ça, mais je valide pas son message sur la Lean, là, ça, 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 et les petits ne faites pas ça, et je l'ai toujours fait, et c'est-à-dire que quand 6ix9ine est arrivé, c'est la première chose que j'ai dit et la première chose que j'ai fait. Et j'ai toujours justement, dès qu'il a, il poste un truc, j'ai toujours fait ça en fait. Ça veut dire que au moment où il a eu le plus de buzz, bah, tout le monde s'est dit, bah, tout le monde voyait que ça du coup. Mais c'est ce que j'ai toujours fait dans ma ligne éditoriale en fait. Donc du coup, c'est normal que les gens étaient choqués. Mais en 2016, je faisais des fois des 4 vidéos par jour. Hein. 4 sur 6ix9ine, XXX, 6ix9ine, genre 6ix9ine disait un truc, XXX il répondait, je faisais la vidéo sur XXX, l'autre nanana, et j'expliquais, bon là les gars, écoutez, tu vois, j'étais un peu le décodeur et j'essayais de dire aux types de pas suivre. Parce que je te promets, quand tu parles aux petits, ils sont tricks, les types d'aujourd'hui, c'est pas nous. Hein. Nous on a on a du respect, on a le respect des anciens, le respect d'autrui, de nanana. Les types ils s'en battent les couilles, hein. Ils peuvent insulter des grands, des trucs, et c'était plus dans cette démarche là en fait.
T'as l'impression que t'as une responsabilité sur ceux qui t'écoutent, genre.
Bah, je suis un grand frère. Ça veut dire que j'ai deux petits frères. Ça joue beaucoup pour moi, en fait, ce truc-là de deux petits refrains. Moi, mes petits refrains, genre à l'époque, ils me voyaient boire, fumer, tout ça. Ça, j'ai arrêté dès que j'ai vu que ça fait, tu vois, peut-être plus de 10 ans que je vois pas, je fume pas. J'essaie de leur montrer à mes petits refrains que je suis clean, que je travaille pour mes trucs, que j'aide la daronne, que si, ça, ça. Donc, en vrai, ce côté-là, j'ai voulu le remettre aussi sur ma chaîne YouTube, etc. Tu vois. C'est pour ça que je te disais qu'à un moment, il y avait une. Quand je faisais les vidéos pour faire le buzz, j'avais ce truc-là où je me disais... Pff, en vrai, tu vois, c'est marrant parce que, voilà, c'est l'unité onctueuse, c'est passé un message en soi, tu vois. Mais c'était pas moi à 100%. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais cette gêne, en fait. Parce que oui, j'aime bien la l'unité onctueuse, j'aime bien les femmes formées, etc. Mais parler que de ça, ça me gênait à un moment. Je me disais, ouais, ok, ça fait 1 million de vues sur Facebook. Ok, 1 million de vues, ça fait tant d'argent. Pff, mais à un moment, frère, c'est relou. Et j'ai carrément délaissé mon Facebook, là. Vas-y, je fais même plus de vues, frère. Faut que je reviens sur Facebook bientôt. Mais bon, c'est mort Facebook là. Qui est sur Facebook même?
Ah, nous, on est sur
Facebook. Là, il est en Facebook, là, il est pas Facebook.
On a pas lancé Facebook aujourd'hui. Ah, ok, ok. Ah, c'était lourd.
Ouais,
on a grave appris des trucs. Ah, j'ai... De toute façon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour ceux qui.
Je suis sur tous les réseaux. Hein. I am French Balou partout.
French Plug fort.
Ouais, French Plug partout. Louis Oda partout. Doug Logan partout.
Il sort un projet bientôt ?
Louis, là, il travaille dessus. Et là, on va passer. C'est-à-dire que tous les projets qu'on a fait avec lui, c'était vraiment. Que nous, à 100%, on cherchait pas à être sur d'autres médias, etc. Là, on va passer l'étape de avoir un attaché de presse.
Ok.
Enfin, on va être plus sérieux dans le truc.
On fait des questions chat.
Go.
Peut-être quelques-unes, non?
Vas-y.
Voilà, j'ai transpiré de ouf, les gars.
Je posais vos questions dans le chat. On est là pour y répondre. On a sélectionné quelques questions, regardé avec Balou. Et en plus de ça, il voit le retour aux questions. Ça veut dire s'il y en a une qui te parle plus que les autres.
Vas-y. Hein.
On va pouvoir balancer ça.
Vous avez le retour en face, moi je l'ai pas encore.
Et BG. Yes, ouais. Mais
Des BG, si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant.
En tout cas,
c'était même pas annoncé au début qu'il y avait les questions à la fin du.
Ouais, ouais non, c'est cool, hein, tu connais, on est là.
Tu recommandes. Non, là, là. Non, mon ref, on peut pas. Tu... Alors, ça balance les questions. Est-ce que t'es chaud sur la question de Troll God?
C'est quoi la question, elle est où?
Est-ce que Balou peut nous raconter sa rencontre avec Offset, notamment son manager? Je crois qu'il est un gros businessman.
La rencontre avec Offset? Putain, c'est une dinguerie cette rencontre. Ça passe par BT, ils nous mettent en relation, etc. Et quand on arrive, l'une des meufs attachées de presse d'Offset, on arrive, on se pose, elle vient, elle sort sa caméra, et elle attrape Fauji et dit « Excuse-moi, on peut faire une vidéo ensemble en anglais hein. ?» Fauji regarde, il fait « Ok ». Après, il lui fait une dédicace en anglais. Après, il dit, ouais, c'est pour mon copain, il regarde toutes tes vidéos et tout. Non, non, non. Hein? Fauji, il regarde, il dit, mais quoi? Après, il me dit, ouais, en fait, il est moitié français, il regarde toutes tes vidéos, il kiffe de fou, il est fan. Donc, vas-y, on a grave kiffé votre équipe. C'est pour ça qu'après, on a dit, ouais, je suis d'art. On a dit, c'est quoi ce délire, tu vois? Ouais, avec Fauji, on s'est regardé, on a dit, wow, c'est quoi ce délire? Et après, bah, Offset, il est arrivé en mode, oh, what up, bro? Oh, boum, boum. Je sais pas, en fait. À la base, ça devait être une interview normale. Après, vas-y, on va faire du shop. T'es chaud, vas-y, go. Après, on a ramené les caméras.
On dirait que c'était prévu. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'est le délire shopping et tout. Alors qu'en fait, juste d'aller une caméra.
C'est là, il est le plus fort.
Franchement, ça s'est fait comme ça. Hein. Franchement, ça s'est fait vraiment comme ça. Et ouais, boum.
C'est d'art ouais. De fou. Ouais. Son rapport avec la sneaker, c'est Buy the Sneakers. Question de Elav16. Et en vrai, ouais, on n'a pas trop parlé de Buy the Sneakers. Ouais. Mais c'est aussi peut-être ton seul rattachement aujourd'hui avec le game français, non?
Ouais, ouais, c'est là aujourd'hui, ouais, c'est le seul truc que je fais où je fais avec des artistes français. En fait, ça s'est fait avec Petit Délire, comme j'ai dit, qu'un média que je suis depuis des années. C'est force à H et à toute l'équipe. Et on s'est dit, ça faisait longtemps qu'on parlait, on s'est dit, vas-y, faut qu'on trouve un truc en commun. Moi, j'aime bien les sneakers. Enfin, je suis pas non plus un sneakers addict, genre, je connais tout, mais je kiffe. Et puis, je suis proche des artistes de rap français, donc on s'est dit, on fait un truc en commun où, voilà, on parle de sneakers, mais aussi de leur actualité. On mélange l'actualité et leur paire de chaussures aux artistes, et on fait un truc cool, et c'est de là où c'est parti, tu vois.
Il y a Sad qui a dit, est-ce que t'es parti remercier ta conseillère d'orientation qui t'a dit pour le BTS
ça, c'est très marrant,
commerce international.
Parce que, tu vois, il y a un mois, on a fait le premier podcast avec Youssouf,
ouais.
Au Château Rouge. Et on a eu l'expérience totalement inverse. Et de manière générale, j'ai l'impression que les conseillers d'orientation, quand on en parle, c'est jamais positif.
Ouais, de fou.
Mais là,
fou.
En vrai, t'as une bête d'expérience avec
bah,
les conseillers.
De fou. Moi, quand j'ai entendu On peut voyager, j'ai dit let's go. Non, je l'ai jamais remercié. Tu me fais noter un truc, frérot. Je vais aller la remercier.
Ah, c'est d'art de fou.
Ouais, je te jure.
C'est grave, grave bien. C'est grave, grave stylé. T'as un truc, Sean?
Ils sont marrants avec les questions. Là.
C'est de ouf.
Tu penses qu'Offset a trompé?
Du coup, t'as fait l'interview avec Mac Miller.
Ouais.
Je crois qu'il y a Isus Y qui posait la question. C'était comment cette rencontre-là?
J'ai fait trois interviews. J'ai fait trois interviews avec Mac Miller en tout. J'en ai fait une pour son album Listening Music with the Sound Off, là où il a à poil. Et j'ai fait celle-là. Où on a parlé de sa carrière en mode beatmaker aussi, sous le nom de Larry Fisherman, etc. Et en vrai, il était à un moment où il pétait bien dans sa carrière. Et franchement, c'était un ange, genre une crème. Genre, on dirait limite, c'était moi la star, comment il m'accueillait. Genre, tu veux un truc, tu nanana, genre, il était vraiment bon délire. Et à chaque fois qu'il vient, je crois que c'est les mecs de Pittsburgh, parce que Wiz Khalifa c'était pareil, il vient tout seul avec un attaché de presse, il se prend pas la tête, il répond à tout, il joue le jeu pour tout. Et c'était une crème en vrai de vrai, c'était un mec super validé. Et Wiz Khalifa pareil. Je pense que dans les interviews qui sont le mieux passées, c'est Wiz Khalifa, Mac Miller et Kendrick Lamar en rap US. C'est vraiment les mecs les plus pisses, tu vois.
Il y a Taïb Bek qui dit de quoi t'es le plus fier aujourd'hui. Et moi je vais ajouter, j'ai l'impression que t'as essayé de placer tous les gens de ton entourage un peu partout, tu vois.
Ouais.
Et du coup, même ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier dedans, tu vois?
Bah, moi, je suis fier de. Ce que je suis fier, c'est de. Bah, aujourd'hui, que la daronne, elle soit contente de voir nous trois, ces trois enfants, charbonner ensemble et que ça se passe bien. Ouais, que ça se passe bien, tu vois. Genre, c'est le truc dont je suis le plus fier, tu vois, je pense. Que, comme t'as dit, que la famille charbonne ensemble et que ça se passe super bien, qu'il n'y a vraiment jamais d'embrouille et rien, et qu'on est sur la même manière de penser, le même délire, et que ça fonctionne, tu vois. Donc je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier, vraiment.
J'avoue, il y a des questions auxquelles c'est complexe de...
Moi, je réponds à tout, hein, t'inquiète. Hein. J'ai une formation esquive.
Elle a une bonne question, on va en prendre deux encore. À part les States, quel pays t'inspire ou te parle?
Bah moi,
c'est Matt qui a dit ça.
En vrai, le continent africain, tout ce qui se passe en ce moment en Afrique, que ce soit Nigeria, Ghana, la musique congolaise, tout ce que tu veux, en vrai, j'en parle pas beaucoup, mais je suis à fond et je kiffe de fou. J'ai des projets que je suis en train d'écrire en ce moment, puisque voilà, moi je suis antillais, dernièrement j'ai fait un test. Je suis Guadeloupe-Martinique, j'ai fait un test, j'ai vu d'où je venais d'Afrique, etc.
Tu viens d'où ?
J'ai plusieurs trucs, j'ai une partie Nigeria, j'ai une partie, tu vois, Sierra Leone, Maasai, attends, parce qu'il y en a, il y a tellement, il y a 20% de ça, 8% ouais. De ça, il y a plein, j'ai une petite partie d'Afrique du Nord aussi, tu vois, et du coup j'ai vraiment envie de faire un truc qui lie un peu, bah, toutes mes... Tu vois, la France, les Antilles, l'Afrique, et parler d'un truc culturel. Genre, je pense que, ouais, j'aimerais bien, et j'ai jamais été en Afrique, n'importe quel pays d'Afrique, j'ai jamais mis les pieds en Afrique. Donc, j'aimerais bien faire, c'est pas un pays, c'est un continent, mais j'aimerais bien faire un bail avec ce qui se fait en ce moment en Afrique. Et ça fait un moment que je suis dedans, mais dis-toi, en 2012, je voulais lancer un site qui s'appelait Ben King à l'époque, mais bon, j'ai jamais trouver de personnes qui étaient assez passionnées pour le faire avec moi, etc. Okay. Mais c'est un truc qui me passionne de fou. Ouais.
Il y a...
Tu l'as perdu.
J'ai perdu le com.
Tu l'as trouvé?
Non, attends.
Est-ce que t'as regardé le documentaire de Gims? On en avait parlé la semaine dernière.
Ouais, je l'ai regardé.
Et t'as pensé quoi, justement, de toute la partie sur sa relation avec le Congo, et même, bah, du coup, comme toi, tu vois?
Ouais, j'ai trouvé ça cool. J'aurais même... Moi, ce que j'ai kiffé dans le reportage, la partie que j'ai kiffé, ouais, c'est justement ça. C'est la partie où on apprend où il était quand il était jeune, à quel âge il est arrivé, avec ses refrains. Derrière, un refrain à lui qui habite juste derrière chez moi, là, qui a grandi à Clichy-sous-Bois, juste derrière chez moi. Et comment il a grandi et comment il est passé, justement, de... Parce que, pareil, quand tu regardes Gims, t'as l'impression que ça allait comme ça, section d'assaut. Et en fait, quand tu regardes le reportage, tu vois cette évolution, tu vois comment il est devenu Gims, comment il est passé de vraiment la pauvreté, etc., à ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est le passage que j'ai trouvé le plus fort dans le reportage, tu vois, sur Gims. J'aurais accentué encore plus sur je serais rentré encore plus dans les détails sur ça.
Ouais, mais je crois que j'avais fait la réflexion, mais t'as capté, il y a le moment où il parle de la pauvreté, donc du coup la précarité dans laquelle il vivait quand il était plus jeune.
Ouais.
Et direct, tu passes à l'âge où il a 19-20
ans.
C'est ça, c'est ça. Il y a un espèce de petit gap. Après, en même temps, dans un docu, j'avoue, sinon tu fais des épisodes et tout.
Ouais,
ça.
C'est ça. Sinon,
mais j'avoue qu'il y avait un gap.
Ouais, c'est ce gap-là que moi, je me serais peut-être plus focus sur ça. Parce que même la période section d'assaut, il y a eu un petit... Ils en ont pas trop parlé. Hein. Ils sont...
Ouais.
Ils sont...
À part jouer au loup-garou un peu, c'était
marrant. Ouais, voilà, ça, tu vois. Ça, pas... Mais le reportage, il était cool, hein, franchement.
Lors de fou. Lord Food.
Il y a Odjinga qui dit, c'est quoi ton album de musique préféré, toujours confondu?
C'est Get Rich or Die Trying de 50.
Tu mens.
Je te jure.
Ok.
Pourquoi?
Je pense que c'est l'album de pied, je pense.
Non, mais c'est trop. En fait, cet album, il m'a traumatisé.
Tu sors pas un Carter ou un truc comme ça?
Bah, j'aurais dit Carter 3, tu vois. J'aurais pu dire Carter 3, Carter 2.
Ok.
Mais Get Rich or Die Trying m'a fait un effet pire, en fait.
Ok.
Genre, tous les sons de l'album. Wesh, tous les sons de l'album, c'est trop. C'est une histoire de fou. Il y a tout. Il y a le film, il y a l'album, il y a 50 qui arrive, les Durag qui arrivent pour moi dans ma vie. Tu vois, les fausses chaînes New York, les débardeurs G-Unit serrés, bizarres.
T'as mis ça, toi ?
Je faisais 10 kilos, mais ouais, je les mettais. Non, franchement, c'était trop. C'était trop. Quand il arrivait avec Get Rich or Die Trying, c'était beaucoup trop pour moi.
Et il y a Sinjed, tu me dis si t'as encore une question, qui dit, est-ce que t'aimerais bien faire des documentaires ?
Grave, grave. Je suis sur un projet de docu que j'écris. Pour l'instant, c'est que de l'écriture, mais ça revient à ce que j'ai dit sur l'Afrique, les Antilles et tout ça. Je kiffe grave, ça.
Ok. Grave. T'as d'autres questions ?
T'es sur 27 projets en même temps, c'est d'art.
Ouais, après j'écris, il y a des trucs que je privilégie, et que je peux... Ouais, j'essaye d'avoir un coup d'avance toujours pour pas me retrouver. J'aime... En fait, quand je fais rien, je sais pas, je kiffe trop travailler, j'arrive pas à rien faire. Alors quand je suis à la maison, je fais rien, je sais pas, ça me saoule. Genre, j'arrive pas, j'ai toujours...
Tu prends des vacances, tout ça, toi ?
Ouais. Non, j'avoue, je prends pas de vacances. C'est ce qu'on me reproche de ouf, tu vois. Dis, mais sors, prends vacances. Et même quand je suis en vacances, j'ai envie de travailler, tu vois. J'arrive pas. En fait, je sais pas, c'est un plaisir parce que je fais ce que j'aime, donc j'arrive pas. Mais faut que j'apprenne à me déconnecter un peu, on va dire. Je vais ma. Et toi, tu prends des vacances ?
Frérot, c'était le Camino Club. Merci.
Merci à vous, les viewers.
Parce que vous, wesh, confinement, pas confinement, été, pas été, vous êtes là tous les jours.
Pas confinement, pas confinement.
Bah, on était en live, on postait depuis chez nous. Travailler depuis chez nous.
Là, vous avez charbonné fort. Franchement, je vais dire la vérité, moi, je suis grave admiratif de votre taf, tu vois. Genre, vraiment, vraiment, on le dit souvent avec l'équipe, on regarde, c'est vraiment chaud ce que vous faites. Les gens se rendent pas compte parce qu'en vrai, gérer un média c'est compliqué, gérer une équipe c'est compliqué, avoir le lieu, le matos, le truc, c'est tout un travail et vous arrêtez pas d'augmenter, vous arrêtez pas de proposer des nouveaux trucs. Donc franchement, moi je valide trop ce que vous faites, vraiment, vraiment. Et merci de l'invitation et vraiment force à vous parce que vous êtes en gros ce que vous faites là, vous allez changer le game en fait, vraiment. Vous changez le game de vous-même avec votre équipe, tu vois, et c'est trop lourd. C'est
moi dès qu'on me dit un truc gentil, je suis mal à l'aise.
Non mais parce que
ça veut dire merci, ça.
Peut-être parce que vous avez trop la tête dans le guidon, vous voyez plus. Mais ce que vous apportez au game, c'est trop lourd, frère. C'est trop big. C'est ce que la France avait besoin. Genre même tout ce que vous faites, tout. Genre le concept, le naturel que vous avez, tu vois. Genre, tu vois, les gens, ils aimaient trop faire des trucs vraiment... C'est quadrillé, hein, ce que vous faites, hein, mais genre, c'est naturel. Je sais pas ce que je veux dire. Ça se voit que vous avez vos codes, vos manières de parler, vos délires. Vous prenez la caméra, bam, ça parle d'un sujet, boum. Ça débite de manière naturelle, ça fait ci, ça, ça. Ça parle de père, ça débat, ça découpe des languettes de chaussures. Ça... Tu vois, non, c'est chaud, c'est lourd, c'est un délire. Et même des fois... En fait, t'es submergé, tu regardes Camino, bam, oh boy, y a un post là, Insta Story, oh boum boum, oh y a une vidéo, oh boum boum, c'est trop lourd. C'est le média, tu vois ce que je veux dire, c'est lourd de fou.
Normalement, on devait finir sur une note sur what.
C'est fort de fou, mais il y a des questions. Il y a des bêtes de questions, et je trouve que l'interview était quand même trop trop dark, et on a appris grave des trucs. En vrai, j'avoue que, genre dans les détails, je pense qu'on. En tout cas, moi, je connaissais pas précisément ton parcours. Mmh. Je pense que les trucs que t'as expliqué et comment tu les as expliqués et tous les trucs que t'as raconté, c'était d'art.
Ah, merci.
Genre, vraiment, c'est frais.
Ah, merci.
Et on
merci.
Espère, je pense, on espère tous que la suite, ça va bombarder et que vu que t'es sur la pente ascendante avec French Play, j'espère que ça va continuer à bombarder.
Merci de fou, les gars. Merci.
Et j'ai reparlé d'un truc vite fait. La vérité, en janvier ou février, c'était une période où j'ai l'impression que c'était pas ouf pour Watt. Et quand t'as repris les vidéos tout seul et je voyais les scores et tout, confinement, tout ça, je me suis dit, je t'ai get pour what. Et je te l'ai même pas dit par message, tu vois.
Ah,
et,
c'est merde.
Et je te le dis là, c'est grave d'or, tu vois. Il faut rien lâcher, frère.
C'est merde de fou.
Merci aux Ultra Bèches qui étaient là pour l'émission. Que vous soyez en podcast, en vidéo, en live avec nous. Sachez que tous les jeudis, normalement à 18h, là, c'était plus 19h30. Bref, en tout cas, vers ces heures-là, venez sur YouTube, Twitch, ou alors le lendemain, venez en podcast sur Spotify, etc. pour suivre nos lives avec nos invités ou pas. On espère avoir de plus en plus d'invités. D'ailleurs, qu'est-ce que t'aimerais avoir dans le podcast ?
Crise d'Iconic.
Okay. Lourd. Ouais, vous avez travaillé.
Ouais, ouais, ensemble, ouais, carrément. Toujours. Sur BT, ouais, ça a repris il y a pas longtemps.
D'art de fou.
Ouais.
Ok, lourd. Eh, hey, de toute façon, il faut qu'on fasse un street style ou un truc comme ça.
Ils ont dit là, ils ont dit c'est quand un
boxing street style. On va faire ça, on va faire ça. Simer les BG, c'était Camino Club. On se voit bientôt demain matin sur Spotify. On est ensemble. Bye, Banks.
Banks.